Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 6h58 et on est ensemble jusqu'à 9h. Oui, c'est lundi. Ah oui, c'est lundi. Et il pleut. Oui, il pleut. Mais on est ensemble et vous écoutez Apolline Matin. Dans un instant, ce CPE, contrat première embauche, qui est en train de revenir. Souvenez-vous, le MEDEF réinvente le CDI jeune, un CDI qui pourrait être rompu sans motif pendant 3 ans. Avec un SMIC inférieur pour les jeunes. Les patrons assurent que c'est pour lutter contre le chômage des jeunes, tollé à gauche et tollé chez les syndicats. Le numéro 2 du MEDEF viendra défendre ses propositions de CDI jeunes. Ce sera à 7h40. Et vous, vous en pensez quoi? Près d'un jeune sur 5 est au chômage. Est-ce que pour vous c'est la solution, ce CDI jeune? Vous êtes peut-être d'ailleurs patron, dites-le nous. Est-ce que c'est mieux que rien, ou alors au contraire, est-ce que ça vous révolte, ce CDI au rabais? Je vous attends au 3216 et sur le WhatsApp 0612 424 424. Je poserai aussi la question de ce CDI jeune à Jordan Bardella, mon invité à 8h30, le patron du RN, le plan B si Marine Le Pen ne peut pas se présenter en 2027, mais qui est donné gagnant, quelle que soit la configuration et quel que soit l'institut de sondage. J'attends vos questions, venez interpeller Jordan Bardella dès maintenant au 3216. Dans un instant, le journal de 7h. Il est 7h, excellent réveil et courage pour ce lundi. Vous êtes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vient de l'apprendre, la famille du petit Émile réclame de nouvelles investigations sur la mort du petit garçon. Ses grands-parents réclament des actes complémentaires comme de nouvelles fouilles ou encore l'approfondissement d'études de la téléphonie. La cérémonie des Grammy Awards qui vire à la tribune politique contre la police de l'immigration aux États-Unis et la politique de Donald Trump et le PSG qui garde la tête de la Ligue 1 après sa victoire dans la douleur hier soir face à Strasbourg. 2-1.
2 ans et demi après la disparition du petit Émile, de nouvelles investigations vont-elles voir le jour?
Toujours aucune mise en examen dans ce dossier. L'enquête se poursuit quelques semaines après de nouvelles perquisitions dans la résidence des grands-parents sur la commune du Haut-Vernay. Ces derniers réclament de nouvelles investigations portant sur la mort de leur petit-fils. Une information de nos confrères de BFM TV. Concrètement, Romain Auguilzon transmis au juge d'instruction des demandes d'actes complémentaires issues de leur propre recherche de travail.
Oui, des demandes concrètes qui ont été transmises en fin de semaine dernière. Selon les informations de BFM TV, les avocats des grands-parents d'Émile demandent notamment de procéder à des compléments d'audition de témoins ou d'approfondir l'étude de la téléphonie. L'avocat de la grand-mère d'Émile estime notamment que certaines zones déjà explorées lors de l'enquête n'ont pas été assez étudiées, notamment là où Émile s'est mystérieusement volatilisé le 8 juillet 2023, là aussi où une partie de son cadavre a été retrouvée le 30 mars 2024. Il ne s'agit pas de critiquer ou de concurrencer le travail des enquêteurs, précise l'avocat, mais d'apporter une contribution à la recherche de la vérité, poursuit-il. Il semble naturel que les membres de la famille ne soient pas des spectateurs passifs de l'enquête. Le 8 novembre dernier, les grands-parents d'Émile et deux de leurs enfants s'étaient déjà rendus dans le hameau du Haut-Vernay afin d'effectuer des constatations en prenant parfois des photos. C'est sur cette base que ces nouvelles demandes d'investigation complémentaires sont réalisées. Il appartient désormais au juge d'instruction d'y donner suite ou non.
Les précisions de Romain Hougue. Les Grammy Awards, cette nuit aux États-Unis, cérémonie musicale marquée par des prises de parole très politiques à l'heure où la police de l'immigration fait débat dans le pays après la mort de deux manifestants à Minneapolis. Billie Eilish, lauréate de la chanson de l'année, s'est attaquée à Donald Trump, appelant la population à se battre, à prendre la parole, à manifester. Prise de position partagée par le portoricain Bad Bunny, qui recevait le prix de la meilleure musique latine urbaine.
Avant de remercier Dieu pour ce prix, j'aimerais dire
Ice out,
Ice dehors.
We're not savage.
Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers.
We are Americans.
Nous sommes humains et nous sommes américains.
Et à ce propos, notez que le géant français de l'informatique Capgemini met en vente sa filiale au cœur de la tourmente pour avoir fourni des outils d'identification servant les intérêts de la police de l'immigration. Après des semaines de menaces réciproques, le début peut-être d'une désescalade des tensions au Moyen-Orient et face au risque d'une guerre régionale évoquée par le guide suprême iranien, Donald Trump calme le jeu. Le président américain dit espérer un accord avec Téhéran. L'Iran qui répond, Alfred Orange, par une tentative d'apaisement.
En renonçant hier à des exercices militaires prévus dans le détroit d'Ormuz, l'Iran a envoyé un message clair à Washington, estime Kevan Gafaiti, spécialiste de l'Iran.
C'est un signal de la part de l'Iran. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% du flux mondial de pétrole quotidien. C'est aussi l'expression indirecte mais sincère de vouloir baisser la tension parce que l'Iran n'a pas les moyens pour tenir tête aux États-Unis dans ce détroit d'Ormuz.
Un début de désescalade permis aussi par le changement de ton de Donald Trump. Le président américain ne fait plus de la chute du régime en Iran une priorité pour un accord, analyse Jonathan Piron, historien spécialiste de l'Iran.
La volonté de négocier ne se porte uniquement que sur cette question du nucléaire et plus du tout sur la question du soulèvement comme c'était le cas encore au début du mois où Trump annonçait son aide en fait aux personnes qui se soulevaient contre le régime, ce qui finalement recadre aussi le cadre actuel des négociations.
À cela s'ajoute aussi le rôle des pays de la région comme le Qatar ou la Turquie qui œuvrent pour qu'Iraniens et Américains poursuivent les discussions.
À retenir également ce matin la réouverture très partielle du passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. C'est une première depuis mai 2024, point d'entrée vital pour l'aide humanitaire dans l'enclave que seuls les habitants du territoire peuvent quitter désormais sous strictes conditions.
RMC 7h05, le désarroi des habitants de Mios.
Cette commune du bassin d'Arcachon balayée par un coup de vent samedi, un violent coup de vent, une tornade a traversé la ville sans faire de blessés, mais les dégâts sont nombreux, extrêmement localisés, toitures arrachées, murs effondrés. Tout est allé très vite et parmi les 300 sinistrés, ce couple rencontré par Jean-Wilfried Forquès, correspondant à RMC dans le Sud-Ouest.
Joris et Sabrina sont encore sous le choc. Des branches d'arbres arrachées par la force du vent ont endommagé leur maison.
Ça, c'est les impacts qu'il y a eu sur le mur.
Tout a baldingué, c'est apocalyptique.
Le phénomène météo exceptionnel a duré quelques dizaines de secondes, explique Joris, qui se sent assez désemparé.
Honnêtement, c'est même pas quoi faire parce qu'on se dit qu'il faut laisser visible quand même pour les assurances.
Murs et volets roulants endommagés, toiture en partie détruite. Sabrina aura une priorité aujourd'hui.
L'urgence, c'est de contacter les assurances. J'ai commencé à énumérer sur un papier tout ce qu'il y avait, tous les dégâts qu'il y avait à la maison, dans le jardin, dans la piscine.
La mini-tornade a touché une bande de 400 mètres de large sur 3 km de long. Pour les pompiers, place aux dernières opérations, explique le capitaine Cyril Pouzatz, commandant des opérations de secours.
On bâche l'ensemble des toitures, les ouvrants, parce qu'il y a des ouvrants fenêtres, porte-fenêtres qui ont été détériorés. Et donc, on protège de la pluie en attendant que les entreprises privées puissent prendre le relais.
La mairie ne déplore aucun blessé, mais a déclenché le plan communal de sauvegarde pour accompagner les sinistrés.
La victoire d'Antoine Valentin aux élections législatives partielles de Haute-Savoie, candidat de l'UDR d'Éric Ciotti, allié du RN face au candidat LR. C'est la première fois que l'extrême droite décroche un siège dans ce département. Les deux dernières motions de censure visant Sébastien Lecornu dans le cadre du budget de l'État pour l'année en cours examinée ce lundi à l'Assemblée nationale. C'est l'ultime étape avant l'adoption définitive du texte après un long marathon budgétaire.
Et puis Lyon enchaîne une 10e victoire de rang.
10e succès, toute compétition confondue pour l'OL qui vient même chatouiller l'OM, tombeur de Lille 1-0. Les Lyonnais sont 4e ce matin, égalité de points avec les Marseillais 3e. Paris reste leader du championnat à l'issue de la 20e journée, vainqueur à Strasbourg 2-1. Hier soir, les Parisiens, Jean-Louis Tour, ont difficilement déjoué le piège alsacien.
Oui, le PSG n'est toujours pas flamboyant, mais il gagne. C'est le principal à retenir de ce déplacement en Alsace où Paris a marqué le but de la victoire par Nuno Mendes alors que l'équipe était réduite à 10. L'entraîneur Luis Enrique.
On a eu la chance pour gagner ce match quand tout le monde pensait que c'était pratiquement impossible. On a montré les trois dernières années que c'est une équipe qui lutte. Je dois féliciter Strasbourg parce que chaque fois qu'on joue ici, c'est très difficile.
Autre enseignement de la soirée, le Français Lucas Chevalier va probablement devoir encore patienter pour retrouver sa place dans le but car son concurrent Matvei Safonov a été décisif avec un nouvel arrêt sur pénalty. Sa spécialité saluée par son coach Luis Enrique.
Je pense que j'ai eu pendant ma carrière beaucoup de gardiens avec la capacité à arrêter des tirs au but, mais c'est le meilleur gardien que j'ai eu dans cette partie. Sa capacité à deviner les côtés où va être lancé le penalty. C'est une qualité très importante.
Safonov sera sans doute titulaire dimanche prochain pour le choc contre Marseille au Parc des Princes où le public attendra à la fois le résultat et la manie.
PSG et OM, ce sera à vivre la semaine prochaine, dimanche, sur RMC. À retenir également la défaite de Toulon à Pau hier soir. C'est du rugby. Les Varois s'inclinent 32-12 et glissent à la 6e place du top 14 pour rester 2e.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 et vous êtes bien sur RMC. Ce CDI jeune proposé par le MEDEF, ça vous fait réagir. Cédric nous appelle au 32-16. Bonjour Cédric.
Bonjour Apolline.
Cédric, qui est agriculteur en Indre-et-Loire, un CDI jeune, alors c'est un peu comme le CPE hein, dont on se souvient, qui avait fait un tollé. Là, l'idée, c'est que le MEDEF dit, en fait, il faut des droits progressifs pour lutter, disent-ils, contre le chômage des jeunes. Vous en pensez quoi, vous, Cédric ?
Alors, je suis pas complètement d'accord avec eux, parce qu'aujourd'hui, je pense que vivre avec un SMIC, c'est pas évident. Alors, vivre avec encore moins que le SMIC, c'est juste impossible.
Parce qu'il y aurait des droits progressifs, mais aussi une rémunération progressive, en effet. Vous avez raison, hein. Un SMIC jeune, voilà. En quelque sorte.
C'est, aujourd'hui, on peut pas se permettre de faire mais un non. SMIC jeune. Après, au niveau des droits progressifs, pourquoi pas encadrer peut-être la facilité de faire partir un jeune qui arrive sur l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a pas d'expérience, qui arrive sur une entreprise uniquement avec son bagage scolaire, mais des fois, entre la scolarité, le bagage prétendument acquis et l'expérience sur le terrain, des fois, il y a tout un monde.
Et vous avez des salariés, vous ? Vous avez des salariés, vous, Cédric ?
Oui, j'ai 7 salariés.
Ouais.
Enfin, j'ai 4 salariés, oui, excusez-moi.
Ouais. Et vous êtes 7 en tout ?
On est 7 en tout, voilà. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive sur une entreprise qui n'est pas performant, sur une petite entreprise, ça peut vite être problématique pour les chefs d'entreprise, parce que derrière, pour s'en séparer...
En fait, ce qui vous manque à vous, c'est la flexibilité. Ce qui vous manque, c'est la flexibilité.
Oui,
c'est pouvoir
voilà,
les embaucher, et puis bon, si ça ne va pas... C'est-à-dire que l'inquiétude de ne pas pouvoir se séparer d'un salarié si ça ne marche pas, crée aussi une réticence à l'embauche.
C'est ça, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas l'affaire sur une entreprise, derrière, déjà, au niveau de l'ambiance de l'entreprise, c'est compliqué, ouais. Parce que c'est les autres salariés.
Quand on a une petite structure.
C'est les autres salariés qui vont pallier le manque de productivité ou le manque de compétences de ce salarié. Et puis derrière, ça met une mauvaise ambiance. Des salariés qui étaient compétents.
Et pourtant, il y a une très bonne ambiance chez vous, Cédric, je peux le dire, puisque, Cédric, je vous ai reconnu, vous êtes l'agriculteur qui élève des porcs en Indre-et-Loire, et je suis venu passer une journée avec vous dans Apolline chez vous. On vous découvrira d'ailleurs à l'antenne sur RMC Story prochainement. Et Cédric, je peux témoigner qu'effectivement, une petite structure très familiale, mais où vous embauchez des jeunes, forcément, faut que l'ambiance ça suive, quoi. On est d'accord, Cédric ?
C'est ça.
Alors, très belle journée à vous, à votre père, à votre frère, à vos oncles, puisqu'effectivement, j'ai passé une journée à la ferme chez Cédric. On verra ça bientôt dans Apolline chez vous sur RMC Story. En attendant, il y a déjà 2 épisodes que vous pouvez regarder à tout moment en replay. Il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les pro-kids contre les no-kids. Un label désormais pour récompenser les établissements qui seraient particulièrement engagés dans l'accueil des tout-petits-enfants. Ce prix, c'est vous qui le remettez, Sarah Alaïri, bonjour. Vous êtes la haut-commissaire à l'enfance. Et votre parti pris, c'est que oui, les enfants ont toute leur place dans notre société. Et on va voir comment dans un instant. Il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Un café dans les Côtes d'Armor, un restaurant à Paris, un musée à Nancy ou un camping dans les Pyrénées-Atlantiques. 50 établissements partout en France récompensés aujourd'hui pour leur accueil bienveillant des enfants et des parents. Bonjour Sarah El-Airi, c'est
bonjour.
Vous, commissaire, haut commissaire à l'enfance, qui allez remettre aujourd'hui ce prix à ces 50 lieux. Votre parti pris, c'est qu'il faut valoriser les lieux où les parents et les enfants sont bien accueillis. Ça va servir à quoi, cette distinction ?
L'idée, c'est le petit plus. C'est de montrer que face à ce mouvement qui aujourd'hui est en train d'exclure les enfants, d'exclure les familles de leurs espaces, de leurs restaurants, de leurs terrasses, parfois même de leurs wagons, eh bien, il y a en face d'eux plein d'endroits géniaux partout en France qui ressemblent à nos cultures, qui ressemblent à nos territoires et qui au contraire disent bienvenue. Avec un petit plus, les enfants et les familles devraient être accueillis absolument partout.
Mais attendez, justement, je vous demande pardon, je vous arrête tout de suite. Face à ce mouvement qui exclut les enfants, mais il y a un mouvement qui exclut les enfants partout en France. Enfin, je veux dire, moi, je me promène partout en France avec mes 4 enfants. J'ai jamais été renvoyée de nulle part. Hein.
Non, il y a un mouvement qui est mondial, qui s'appelle le No Kids et qui essaye, d'une certaine manière, d'imposer, de séparer. Il y en a en France, c'est pas encore massif, mais on voit petit à petit s'installer cette idée que les enfants, c'est une nuisance. Que les enfants, faut les exclure. Et ça, on le voit dans plein d'endroits. On le voit quand c'est une cour d'école en Ile-de-France qui a été fermée parce que des copropriétaires disent « il y a trop de bruit ». voit quand il y a une aire de jeu qui veut s'installer dans une ville et mine de rien, bah, les voisins disent bah non, ça va faire trop de bruit. On le voit dans l'offre, la dernière offre de la SNCF.
Que les 50 établissements kids friendly en quelque sorte comme on dit, j'ai envie de vous dire il y a toujours eu des guides d'ailleurs de tout temps qui s'appelaient du coup des guides kids friendly, c'est-à-dire pour justement les endroits qui seraient particulièrement faciles, agréables, confortables pour accueillir les enfants.
Mais vous savez pourquoi on a fait ça? Non pas parce que ces 50 lieux transformeront le visage de notre pays, c'est simplement pour les montrer, pour les mettre en valeur et dire, au contraire, que il y a ceux qui considèrent que notre société, elle est fatiguée, qu'elle ne se supporte plus, que on va opposer adultes, enfants et parents. Et en fait, c'est absolument tout le contraire. L'idée, c'est de dire, bah, y a des gens, en fait, qui, par un sourire, qui, par un aménagement, qui, par une manière de dire, bah, bienvenue, font que l'expérience, que le moment partagé avec ses enfants, le moment partagé avec les autres clients, en réalité, de ce lieu, se passe très bien. Et que on peut passer notre temps à dire bah notre société elle vieillit, elle s'épuise, on se supporte plus, il y a des endroits qui interdisent, est-ce qu'on doit aller en justice, est-ce que finalement c'est l'éducation des enfants, est-ce qu'on doit se séparer ou pas, et puis il y en a d'autres.
Mais quand
qui
vous
simplement
donnez l'exemple
des solutions
quand
et
vous
pour
donnez
une fois
et
ben on
Sarah
les valorise.
Lairie, Sarah Lairie, quand vous donnez l'exemple d'une cour d'école qui est fermée, nous on s'était beaucoup intéressé aussi au cas de Marseille.
Bien
où
sûr.
Une cour d'école qui se retrouvait d'école élémentaire qui se retrouvait au milieu d'une barre d'immeuble et qui avait été obligée de fermer parce que les habitants jetaient dans la cour par la fenêtre un certain nombre de détritus y compris dangereux qui tombaient sur les enfants.
Mais ça, c'est absolument
choquant que ce soit votre combat et ça doit être un combat, j'ai envie de vous dire, mais absolu total. Mais vous mélangez en même temps cette histoire de nos kids dans, vous dites qu'ils sont enfermés des wagons. Vous avez entendu la réponse de votre ancien Premier ministre, Jean Castex.
Que j'adore au passage.
Bah oui, enfin, il vous dit, vous me parlez de 20 places dans des TGV aux horaires où les enfants sont à l'école. J'ai envie de dire, priorisez peut-être vos combats, non?
Non. En fait, ça dit quelque chose de plus profond. Le cas de la SNCF, et encore une fois, le Premier ministre Jean Castex, c'était le mien, je l'adore. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose d'écrire sur le site d'une entreprise publique. C'est interdit, au moins de 12 ans, où c'est un espace pour les personnes qui travaillent, où on a besoin, pour le coup, de calme.
Mais vous emmenez vos enfants au travail?
Mais Apolline, c'est pas que j'emmène ou pas
parce
mes
que
enfants.
C'est des places.
Quand ça arrive.
Vous avez sans doute vérifié, mais c'est des places sur les TGV aux horaires où les enfants sont à l'école. Et il s'agit de 20 places sur un TGV où les enfants sont les bienvenus sur tout l'ensemble de la rame.
En réalité, ça signifie quelque chose. Moi, je comprends tout à fait qu'on ait besoin de calme et de travailler. Mais ça passe pas par le fait de supprimer ou d'interdire l'accès aux enfants.
Parfaitement, mais je trouve quand même qu'à force de se battre.
Ça passe par des aménagements.
On en oublie le réel. Et le réel, c'est la cour d'école dont vous avez parlé, qui est un combat fondamental.
Apolline, le réel, c'est simplement de se dire, moi je comprends qu'il faut des espaces pour travailler dans un train, il faut aussi des espaces aménagés pour les enfants, mais commencer à écrire noir sur blanc dans une entreprise publique qu'on interdit l'accès aux enfants parce qu'en réalité c'est exclure une nuisance, ça non, ça dit quelque chose de beaucoup plus profond.
Valoriser les lieux pro-kids, formidable, faire tout un esclandre pour 20 places dans un TGV, moi j'ai trouvé ça excessif. Mais en tout cas, Sarah Lairie, votre label, il est remis aujourd'hui à 50 établissements, donc Fro Kids, Kids Friendly, comme on a pu dire jusqu'à présent, qui accueilleront en particulier les enfants. Sarah Elairi, haut commissaire à l'enfance, merci à vous. Dans un instant, on va remonter le cours de l'histoire avec Arthur Chevalier qui vient de rentrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Depuis quelques jours, tous les regards sont tournés vers le détroit d'Hormuz, qui est le lieu de tension entre l'Iran et les États-Unis.
Eh oui, une petite bande de mer entre l'Iran et Oman, qui a longtemps été un repère de pirates avant de devenir une des principales routes du pétrole mondial.
Je vais l'expliquer dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Jordan Bardella. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le fil de l'histoire comme chaque matin avec notre historien Arthur Chevalier. Arthur, le détroit d'Hormuz est au cœur des tensions entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran qui menace d'y mener des opérations militaires.
Oui, la République islamique menace aussi de bloquer ce détroit d'Hormuz. Juste à côté, il y a la fameuse armada de Donald Trump, hein, 10 navires militaires dont le porte-avions USS Abraham Lincoln, tout ça envoyé la semaine dernière. Bref, entre Téhéran et Washington, le ton monte.
On a l'impression que le sort du monde se joue dans ce fameux détroit d'Hormuz.
Mais oui, et pourtant géographiquement, le détroit d'Hormuz, bah, c'est pas grand-chose. hein. C'est un bras de mer large de 55 km, long de 210 km, mais il a une importance stratégique puisqu'il relie le golfe Persique, donc le Moyen-Orient, au golfe d'Oman et à l'océan Indien. D'un côté du détroit, c'est l'Iran, de l'autre, c'est le sultanat d'Oman. Pratiquement, ce détroit relie donc des gros producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite au reste du monde. 21% du pétrole mondial transite par là-bas. Ça explique évidemment qu'on s'y intéresse autant.
Et ce détroit, il a toujours été une zone stratégique ou c'est récent ?
Alors, depuis assez longtemps, c'est une zone stratégique, mais pas pour les mêmes raisons, puisque la région du détroit d'Ormuz, ça a longtemps été un repère de pirates, Apolline. Il y avait des petits sultanats et beaucoup de piraterie qui enrichissaient tout le monde. Au 19e siècle, le golfe Persique, on appelait même ça la côte des pirates.
Quand est-ce que l'Iran prend le contrôle de ce détroit ?
En 1971, deux jours avant que les Émirats Arabes Unis, qui sont aussi dans la zone, proclament leur indépendance, les Iraniens envoient des troupes sur des îlots en plein milieu du détroit, des îlots sur lesquels ils mettent immédiatement des soldats, des infrastructures militaires, une façon pour l'Iran d'affirmer sa souveraineté. À l'heure où on parle, l'Iran occupe toujours ces îlots, ce qui évidemment leur donne un avantage stratégique.
Est-ce qu'il y a déjà eu des vrais affrontements, j'allais dire militaires sur place?
Oui, ça a déjà dégénéré. Dans les années 80, l'Iran et l'Irak se livrent une guerre à mort et le détroit d'Ormuz devient le théâtre de conflits très violents. On appelle ça la guerre des pétroliers. Le détroit était recouvert de milliers de mines anti-navires. Au total, 500 bateaux avaient été détruits ou endommagés, ce qui avait naturellement beaucoup perturbé le marché de l'énergie.
Et aujourd'hui, à qui appartient formellement le détroit d'Ormuz ?
Alors, très bonne question. Les eaux du détroit appartiennent à la fois à Oman et à l'Iran, mais du point de vue du droit international, ils ont l'obligation de maintenir le transit maritime, donc l'Iran n'a pas le droit de fermer le détroit comme elle menace de le faire. Quant aux États-Unis, ils ne reconnaissent aucune des deux souverainetés. Pour eux, ce sont des eaux internationales. Bref, vous l'avez compris, tout ça n'annonce rien de bon pour les jours à venir.
Arthur Chevalier, l'historien et géographe ce matin d'Apolline Matin. Il est 7h24 et on accueille Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour. Salut Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le président du Rassemblement National, député européen, Jordan Bardella.
Oui. Les fans hystériques sont déjà là. Et oui, c'est l'homme politique le plus populaire de France. Donc la sécurité est sur les dents là pour canaliser les groupies qui le suivent partout. Bardella, c'est un chanteur de K-pop. C'est les BTS, même s'il n'a pas eu son bac plus 2. C'est les BTS. Alors il est en tête de toutes les intentions de vote. C'est le Balladur de 2027. C'est le DSK de notre période. Voilà. Alors faut jamais être le favori trop tôt, hein. Qui aurait pu imaginer Édouard Balladur agressant sexuellement une femme de chambre à l'hôtel à New York? Déjà, imaginer qu'Édouard Balladur a une sexualité, c'est pas facile.
Édouard, faisons l'amour.
Je vous demande de vous arrêter immédiatement.
Jordan Bardella a interdit aux élus RN de se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews. C'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait, Jean-Marc Morandini. Cibler comme ça des mineurs et profiter de leur faiblesse pour leur retourner le cerveau, c'est intolérable. À CNews, on retourne le cerveau des personnes âgées.
Ah,
il y a une éthique, c'est les vieux. Par contre, si on doit mettre encore plus d'élus RN sur les autres émissions de la chaîne, je sais pas où on va les caser, là. Va falloir mettre des strapontins. Et puis surtout, demain auront lieu les réquisitions dans le procès de Marine Le Pen. Il va se déguiser dans la salle d'audience avec un chapeau et une fausse moustache.
La parole est à monsieur le procureur.
Oui, nous demandons que l'inéligibilité soit levée.
Et lui,
quelle honte ! Justice laxiste !
C'est toi, Jordan ?
Non, non, je suis à la muscu en fait.
Alors il a révisé ses fiches tout le week-end et il va venir dans votre interview tout stressé, comme à un examen. Jordan Bardella, bonjour. Alors vous étiez un soutien de Donald Trump.
Madame, le président américain est nommé pour 4 ans. Il est élu au suffrage universel indirect. Et la capitale des États-Unis est Washington.
Oui, c'est ça, mais... Plus concrètement, Jordan Bardella, vous avez longtemps défendu la politique migratoire de Trump. Elle a quand même eu des conséquences tragiques. Deux civils américains ont été tués par des agents de l'immigration. Qu'auriez-vous fait si c'était arrivé en France ?
On aurait ouvert une cagnotte pour le policier.
En tout cas, va falloir faire poker face sur les questions qui fâchent. Du genre, aujourd'hui Marine Le Pen joue son avenir. Marine est innocente. Ça le fait, hein. Vous seriez déçu si elle ne pouvait pas se présenter ?
Bien sûr, ce serait pas bien.
Allez, rendez-vous avec l'idole des jeunes. J'ai un son qui est pas parti, c'est pas très grave. Rendez-vous avec l'idole des jeunes. Il s'est levé tôt pour être là à 8h30.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Mais on ne sait pas, on se demande. À tout à l'heure.
Jordan Bardella, donc, qui est mon invité à 8h30, mais Arnaud Demange, qu'on retrouve à 8h20. Il est 7h27 sur RMC. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un contrat à durée plus si indéterminé, en tout cas pas au début, pour favoriser l'emploi des jeunes. C'est l'idée du MEDEF qui provoque une levée de bouclier unanime depuis ce week-end. Même le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Un gouvernement qui tire des plans sur la comète ce matin, alors que les deux dernières motions de censure devraient être rejetées aujourd'hui et le budget enfin adopté. Et puis c'est peut-être le nouveau Bétarame. Un collectif d'anciens élèves dénonce les violences physiques, psychiques et sexuelles perpétrées depuis des années dans une vingtaine d'établissements catholiques de la Congrégation des Frères.
Le MEDEF a-t-il déclaré la guerre aux jeunes ?
C'est en tout cas ce que pense la CGT, vent debout contre l'une des propositions du syndicat patronal pour l'emploi des jeunes, l'idée de créer un nouveau type de CDI à droit progressif, autrement dit plus facilement révocable et donc moins protecteur, très similaire au fameux CPE, le contrat première embauche du gouvernement Villepin qui avait fait descendre des milliers de jeunes dans les rues en 2006. Alors de quoi parle-t-on concrètement, Martin Bourdin ?
Ce ne sont pour l'instant que des pistes de réflexion, assure le MEDEF, un moyen de nourrir une discussion entre partenaires sociaux au sujet de l'emploi des jeunes. Mais dans cette note remise aux organisations patronales et syndicales en milieu de semaine dernière, figure notamment, noir sur blanc, l'idée d'allonger la période d'essai des jeunes qui arrivent sur le marché du travail de plusieurs mois. Elle passerait à plusieurs années pendant lesquelles le CDI pourrait être rompu sans motif. Le niveau de salaire pourrait aussi être inférieur au SMIC. En contrepartie, les entreprises auraient, elles, des obligations de formation. Un CDI spécial jeune qui nécessiterait quelques aménagements, notamment législatifs.
Ça passerait par la loi.
Mais pas impossible à mettre en place, explique Arwan Jaglin, avocat spécialiste en droit du travail.
À partir du moment où le législateur décide, pour des raisons d'intérêt général, notamment pour favoriser l'emploi des jeunes, qu'il y a un dispositif qui est cadré en fonction d'un âge, bah, il n'y a pas de problème. C'est trois phrases dans une loi. Encore faut-il que ce soit adopté, c'est costaud quand même.
Il faut poser tous les éléments sur la table, sans tabou, reconnaît le mouvement patronal. La CGT s'y est déjà montrée sérieusement opposée. Les partenaires sociaux doivent se retrouver pour une nouvelle réunion d'ici la fin du mois.
Alors ne manquez pas juste après le journal d'Élise, le numéro 2 du MEDEF qui viendra défendre ce CDI jeune. Mais j'attends surtout vos réactions et vos témoignages. Vous êtes peut-être patron ou alors jeune. Est-ce que vous considérez qu'il faut un CDI jeune avec des droits au rabais, avec un SMIC jeune également, ou est-ce qu'au contraire ça vous révolte? Je vous attends au 32-16.
Une nouvelle réunion entre partenaires sociaux à la fin du mois avec cette fois un budget pour la France. Il devrait enfin être adopté aujourd'hui après l'examen des deux dernières motions de censure déposées par le Rassemblement National et la gauche. Une formalité puisque le gouvernement bénéficie du soutien des socialistes qui ne les voteront pas. Le Premier ministre est donc en passe d'être sauvé et il se projette, Sébastien Krebs.
Certains ne s'en cachent plus. Une fois le budget passé, on a toutes les chances de rester jusqu'à la présidentielle, se réjouit un ministre. Mais à ses visiteurs, Sébastien Lecornu aime répéter que son avenir ne se résumera pas à promener son chien dans les jardins de Matignon. La menace de censure va perdurer. Et il le sait, le temps est compté, 14 mois maximum, avec très peu de marge de manœuvre. Alors pas de grandes réformes au programme, mais quelques mesures très politiques. Lutter contre la fraude, renforcer les polices municipales, une loi pour désengorger la justice, une autre pour la sécurité du quotidien. Et il faudra aussi trancher la question des ZFE. Tout cela avec un gouvernement forcément ajusté, au moins pour remplacer Rachida Dati. De quoi se mettre lui-même en position de se lancer pour l'Élysée. À tout ce qu'il reçoit, Sébastien Lecornu jure qu'il n'y pense pas, mais d'autres commencent à le faire pour lui.
Ultimes auditions aujourd'hui au procès des assistants parlementaires du Front National où Marine Le Pen joue son avenir politique et sa candidature en 2027. Place aux réquisitions demain. Il est 7h34 sur RMC et la parole continue de se libérer dans les établissements scolaires catholiques un an après la révélation au grand jour de l'affaire Bétarame. Cette fois, c'est la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes qui est mise en cause par un collectif d'une vingtaine d'anciens élèves, Solène Leroux.
Ce collectif, ses victimes ont principalement entre 50 et 70 ans. Ils ont été scolarisés dans une vingtaine d'établissements partout en France. Depuis hier, de nouveaux témoignages affluent. Ils sont tous tristement similaires, décrit Philippe, cofondateur du collectif national des victimes des frères des écoles chrétiennes.
Coup de poing, gifle, coup de pied, battu, jusqu'à ce que l'élève quasiment s'évanouisse. Des humiliations avec des gamins qu'on mettait dans des poubelles, qu'on accrochait à des porte-manteaux. Des simulacres de torture où on ligote l'élève.
Des faits de pédocriminalité aussi, des propos déplacés, des attouchements, des viols. La congrégation nous précise qu'une cellule dédiée aux victimes est mise en place depuis 2014 et se dit disponible pour une rencontre. Le collectif demande à l'institution d'aller plus loin et de lancer un appel à témoignage pour libérer la parole des victimes et aussi la création d'un fonds de réparation de 100 millions d'euros.
7h35, il semble inarrêtable. C'est Carlos Alcaraz, grand vainqueur de l'Open d'Australie hier face à Novak Djokovic. L'Espagnol est entré dans la légende en devenant le plus jeune joueur de tennis à remporter les 4 tournois du Grand Chelem. Et ce n'est que le début, Eric Salio.
Oui, les jambes de feu de Carlos Alcaraz ont fait la différence hier face à Novak Djokovic, qui a longtemps retardé l'échéance avec un courage énorme. Mais l'Espagnol veut écrire sa propre histoire, compléter sa collection de chelem à seulement 22 ans. C'est proprement ahurissant et n'allez pas croire qu'il est rassasié.
Je sais que je suis en train de marquer l'histoire avec certains trophées, tournois et accomplissements. C'est un honneur d'avoir mon nom dans les livres des records. Il y a plusieurs tournois que j'aimerais gagner au moins une fois. Tous les Masters, les ATP Finals, la Coupe Davis est aussi un objectif et j'essaierai de tous les remporter.
Il n'a pas osé évoquer le Grand Chelem calendaire, mais si jamais il conserve son titre à Roland-Garros, la question se posera naturellement. En attendant, l'Espagnol doit penser à l'endroit où il va se faire tatouer un kangourou, un problème pas vraiment insurmontable.
En football, le PSG est leader de la Ligue 1 ce matin après sa poussive victoire de 2-1 hier soir à Strasbourg. Paris qui reprend 2 points d'avance sur Lens, suivent Marseille et Lyon à égalité de points.
C'était le journal. Non, il y a
le petit quintet avant de partir.
Il est où le quintet aujourd'hui?
Le petit quintet, il est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à 13h55. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Aloysius. L'outsider, c'est le 2 milliards.
Je partirai bien à Cagnes-sur-Mer avec vous.
On y va ensemble. J'ai mes parents qui sont là-bas.
Ah, bah super. Bon, les salue, hein, monsieur et madame Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
De nombreux messages ce matin, Mathieu, notamment sur cette question des kids, les enfants accueillis, pas accueillis, bien accueillis, mal accueillis.
Oui, c'est du grand n'importe quoi, nous dit ce message. On a le droit de pas vouloir d'enfants à côté de nous. Ça veut pas dire qu'on veut les éradiquer. Il y a des endroits où on veut pas d'animaux. C'est pareil. On oublie le réel au nom de pseudo-principes et ça coûte cher en argent public. J'ai Benoît qui nous écrit. Faut arrêter avec cette polémique. No kids. Le problème, c'est l'éducation. Aujourd'hui, les gamins peuvent foutre le bordel, dit Benoît. Et personne ne bouge. En particulier, leurs parents. C'est inadmissible. Les enfants doivent se tenir en société. Il ajoute entre parenthèses, évidemment, les bébés, c'est différent. Sans préciser à quel âge on n'est plus bébé. Hein. Finalement, ce sera peut-être aussi l'enjeu du débat. Je comprends pas que la politique du no kids, nous dit Alex, déchaîne autant les passions que les gens qui ne veulent pas être avec des enfants restent chez eux. Entre eux, c'est très bien. Ça évite de les entendre râler ou de nous fusiller du regard parce que notre enfant est des endroits spéciaux no kids. Et puis, sinon, on a quelqu'un qui a essayé la classe optimum du TGV sur un trajet Toulon-Paris et qui nous dit le problème. C'était le bruit des téléphones et des gens qui travaillent. Je préférais les enfants.
Merci Mathieu pour ces messages. Il est 7h38. L'autre sujet qui fait réagir au standard, c'est ce CDI jeune qui voudrait autoriser à licencier le salarié sans motif pendant une durée de 3 ans, mais aussi une rémunération inférieure au SMIC et des carences qui seraient réduites entre deux CDD. Voilà quelques-unes des propositions choc que vous faites. Frédéric Le Sachet, bonjour.
Fabrice
Le Sachet, évidemment. Fabrice Le Sachet, et vous êtes vice-président du MEDEF. Alors on parle d'un retour du CPE, mais dans un instant, vous allez nous dire que ça n'a rien à voir.
Oui, c'est pas des propositions, c'est des pistes de réflexion, ce qui est un peu différent.
Donc vous allez pouvoir dire que c'est améliorable.
Exactement.
On y revient justement dans un instant, parce que pour les syndicats, c'est une déclaration de guerre à la jeunesse.
Pour la CGT seulement.
Un jeune sur 5 est au chômage en France aujourd'hui. Ce qui m'importe aussi, c'est d'entendre vos témoignages et vos réactions. Vous êtes patron, vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous pensez de ce CDI jeune? Je vous attends au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story, la télé, canal 23. Les syndicats qui sont au front contre une idée de CDI jeune proposée par le MEDEF. L'idée, c'est une période d'essai pendant 3 ans, une SMIC jeune, une généralisation des contrats précaires. La CGT, voilà comment elle présente votre CDI jeune. Fabrice Le Sachet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du MEDEF. Pourquoi relancer ce qui avait fait polémique sous les traits du CPE? Ou alors peut-être que ce n'est pas du tout votre idée et que c'est caricaturé?
Ce qui est bien, c'est qu'au moins on peut réfléchir sans être caricaturé en France. En fait, ce ne sont pas des propositions du MEDEF, ce sont des pistes de réflexion qui ont été soumises au syndicat dans le cadre d'un dialogue social autonome avec un certain nombre d'autres pistes, mais on s'est focalisé évidemment sur ces deux propositions. En fait, le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a 1 400 000 jeunes qui sont très éloignés du marché de l'emploi. Ils sont ni en formation, ils sont pas en études et ils sont pas en emploi. Et ces jeunes-là, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de solution concrète, opérationnelle, efficace pour eux. Et nous, ce qu'on dit, c'est comment on fait pour les ramener en emploi. Et donc, on a regardé ce qui fonctionnait chez nos voisins. En Italie, Matteo Renzi avait fait une sorte de CDI jeune qui avait plutôt bien fonctionné. Matteo Renzi de gauche, nous on est apolitique, donc on regarde ce qui fonctionne. En Angleterre, pour les jeunes très éloignés de l'emploi, il y avait eu des modulations sur le salaire et ça avait bien fonctionné en fonction de l'âge. Parce qu'en fait, lorsque un jeune est très loin de l'emploi, il y a un surcroît de formation
donc,
de l'entreprise.
Si
donc il y a des nouveaux droits
si
de formation.
Bien, vous vous adresseriez uniquement à ceux qui sont vraiment les très 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 loin de l'emploi, c'est-à-dire les non qualifiés, les jeunes vraiment très loin de l'emploi.
Ben, ceux pour lesquels en fait aujourd'hui il n'y a pas de système qui fonctionne, parce que aujourd'hui on entend beaucoup de gens se scandaliser de pistes de réflexion. Mais ça scandalise personne que depuis 30 ans, il y ait autant de jeunes ou ce gâchis humain, 1 400 000 jeunes hors de tout système d'emploi, qu'il y ait 15 000 jeunes diplômés qui partent par an. Alors, nos propositions sont pas, pistes de réflexion sont pas sur ces jeunes diplômés. Mais, il y a quand même 15 000 jeunes diplômés qui quittent la France chaque année.
Ce que j'ai du mal
à comprendre. Il y a 20% de taux de chômage chez les jeunes.
Ce que j'ai du mal à comprendre, Fabrice Le Sachet, c'est, qu'il n'y ait ni fromage ni dessert. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on puisse envisager un CDI flexible. On a entendu tout à l'heure un témoignage d'un patron dans le monde agricole qui a 4 salariés et qui dit c'est vrai qu'on est parfois réticent à employer des jeunes parce qu'on se dit une fois qu'on leur a donné un contrat, on aura du mal, si jamais ça ne fait pas l'affaire, à s'en séparer. Bon, flexibilité, ok, mais vous ne pouvez pas faire flexibilité et payer
mais
moins que le SMIC, c'est-à-dire
ce
c'est ni
deux
fromage
choses,
ni dessert.
Ce sont deux choses différentes. S'agissant du CDI, est-ce que vous savez aujourd'hui, les jeunes, quand ils rentrent sur le marché de l'emploi, par quel système juridique ils sont employés? Des CDD et du travail intérimaire à 90%. Donc proposer un CDI avec des droits progressifs, c'est justement les sécuriser.
Est-ce que c'est vraiment un CDI quand vous leur dites que vous pouvez vous en séparer n'importe quel moment?
Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est un CDI avec des droits progressifs. Donc plus le temps passe, plus les droits se renforcent. On parle là à 90%, puisque c'est très bien d'avoir des débats théoriques, mais dans la réalité, 90% des jeunes entrent sur le marché du travail en travail temporaire, en CDD. Et il y a 1 400 000 jeunes qui sont exclus du marché du travail. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des systèmes pour les ramener et qui ont fonctionné à l'étranger. Et donc, ces pistes de réflexion, elles peuvent être débattues, elles peuvent être améliorées, mais clouer a priori toute réflexion, c'est peut-être pas la bonne façon de
raisonner. Et c'est exactement ce que l'on refuse précisément sur RMC, pouvoir vous donner la parole, pouvoir entendre les uns et les autres. Mais je dois vous dire qu'au standard et au 32-16, les auditeurs sont plutôt scandalisés par le principe. C'est votre cas, en tout cas, Mika. Vous nous appelez de l'Oise et vous êtes responsable des opérations ferroviaires. Où ça, d'ailleurs? Dans une entreprise publique?
Non, dans une entreprise privée allemande.
Dans une entreprise privée allemande. Je vous écoute, Mika.
Oui, donc en fait, c'est le retour à l'esclavage. C'est ça la proposition du MEDEF. Mais oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que vous voulez, la proposition, c'est de sous-payer des jeunes que l'on peut virer du jour au lendemain sans aucune raison. C'est juste ça. Et c'est l'opposé, mais carrément l'opposé de ce qu'il faut faire. Regardez ce qui se passe en France. Chaque année, les journaux TF1 France, de tous les journaux, Libération, tous les journaux, Le Monde, Le Figaro, tous. On se targue, voilà, les dividendes records des entreprises françaises. Le CAC 40 verse des dividendes records. Pendant ce temps-là, vous avez des Français qui se nourrissent mal, qui ne se soignent pas. Et j'ai des enfants qui ne se soignent pas. Et qui voient tous les excès et tous les scandales autour de l'argent.
Donc pour vous, il faut beaucoup mieux payer, au contraire, nos jeunes. Je voudrais, Mika, que le numéro 2 du MEDEF puisse tout de suite vous répondre, Fabrice Le Sachet.
Mais en fait, il s'agit de jeunes qui sont aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires, qui sont exclus du marché du travail, donc qui sont peut-être au RSA, qui sont dans des systèmes de minima sociaux. Et donc il faut, puisque ce sont des gens qui sont très éloignés du marché de l'emploi, il faut faire des investissements en formation, par exemple comme on le fait avec l'apprentissage. Et je vous rappelle que l'apprentissage, on est passé de 300 000 jeunes à 1 million de jeunes en apprentissage. Et l'apprentissage, c'est pas parce que les entreprises les forcent, on peut pas forcer un jeune à choisir l'apprentissage, c'est parce que les jeunes leur famille pensent que l'apprentissage est une voie de réussite. Et nous, on ne s'adresse pas à ceux pour qui tout va bien, on ne s'adresse pas à ceux qui sont diplômés, qui trouvent facilement un emploi, on s'adresse au scandale des 1 400 000 jeunes qui trouvent rien aujourd'hui. Ça scandalise personne, ça?
Est-ce que c'est pas mieux que rien? Au fond, c'est ce que vous répond Fabrice Sachet. Vous entendez ça, Mika?
Non. La réponse de Monsieur Sachet, c'est voilà, les apprentis, déjà, c'est la décision des parents. Donc, alors,
pardon, Mika, on va être très précis. Il disait que c'est là-dessus que j'aimerais beaucoup entendre votre réponse. Il disait, au fond, ce CDI jeune, évidemment, il s'adresse pas à ceux qui arrivent à trouver du boulot. Il s'adresse précisément à ceux qui sont très, très, très éloignés, qui aujourd'hui sont au RSA ou qui n'ont aucun pied dans l'embauche à quelque niveau que ce soit.
Donc voilà, c'est le retour à l'esclavage, c'est ça. On vous paye une poignée de cerises parce que de toute façon vous n'avez aucune qualification, donc vous ne savez rien faire. Plutôt que de qualifier les gens, plutôt que de motiver les jeunes à rester, à apprendre, à étudier, à être formés, non, vous vous dites. Voilà.
Mais ils ne le sont pas. Pour le coup, ça, je précise les choses, Mika. Il s'agit de gens. J'entends que vous êtes complètement désespéré. Mais Mika, je reprécise quand même qu'il s'agit aussi de jeunes. Et ça, pour le coup, les politiques en parlent quand même régulièrement. Il y a aujourd'hui pratiquement un jeune sur cinq qui est éloigné de tout. C'est-à-dire qu'il n'est même pas, comme vous dites, en train d'étudier parce qu'ils ne sont ni étudiants, ni employés, ni même en recherche d'emploi. C'est ceux qui, en quelque sorte, sont sortis du système. Je voudrais simplement repréciser qu'il y a en effet un jeunes sur cinq qui sont dans ce cas aujourd'hui. Mais précisément, Fabrice Le Sachet, je comprends bien qu'au départ, vous dites que c'est eux qui sont ciblés, mais est-ce que vous n'allez pas créer un système qui va également être une facilité pour les entreprises pour embaucher, y compris ceux, pour embaucher moins cher, y compris ceux qu'ils auraient pu embaucher avec un CDI classique?
Écoutez, soyons sérieux, il y a un certain nombre de secteurs qui ont des pénuries. On recherche des jeunes qualifiés. Est-ce que vous pensez que s'adresser aux fameux nets, à ces 1 400 000 qui sont très éloignés du marché de l'emploi, en proposant un système transitoire où on va investir énormément dans la formation pendant un temps court à 80% du SMIC, c'était une piste de réflexion d'ailleurs, donc qui peut être en plus améliorée, ça va changer quelque chose par rapport aux ingénieurs qui sont Bac+5 dans la tech. Ça n'a absolument rien à voir. Le marché de l'emploi n'est pas un marché fongible. Il y a des expertises qui sont différentes. Aujourd'hui, on a 20% de taux de chômage. On a 20%. Moi, ce qui m'étonne dans tous ces débats, c'est que personne ne se scandalise d'avoir 20% des jeunes au chômage en France depuis des décennies. Et donc nous, je ne dis pas qu'on a la science infuse au MEDEF, mais on essaye de réfléchir en fonction de ce qui a fonctionné au Royaume-Uni, de ce qui a fonctionné en Italie. Peut-être qu'on peut faire mieux, mais de se scandaliser de tout le temps, a priori, ce n'est pas une façon d'aider le pays. Parce que les gens qui se scandalisent, qu'est-ce qu'ils ont proposé aujourd'hui pour les jeunes qui fonctionnent? Pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils proposent à part se scandaliser? Pas grand-chose. Donc, essayons de peut-être avoir un peu de sang-froid. Ce sont des pistes de réflexion. Ça plaît pas aux syndicats. C'est leur liberté la plus absolue de l'exprimer. C'est aussi notre liberté de nous mobiliser pour les jeunes.
Merci beaucoup, Fabrice Le Sachet, d'être venu dans ce studio ce matin. Vous êtes le vice-président du MEDEF. Et merci aussi à Mika d'être venu. Je suis pas sûre qu'on ait beaucoup réconforté Mika, qui était effectivement désespéré. Il est 7h50 et justement, on entendait à l'instant les propositions du MEDEF et des patrons. On les sent extrêmement sur la balle en ce moment. Je peux le dire comme ça. Hein,
vous
êtes bien d'accord, Fabrice Le Sachet? Eh bien, je me tourne vers Charles Consigny, qui est notre voix de droite ce matin. Bonjour, Charles.
Bonjour.
Voix de droite, pour qui, eh bien, il faudrait un patron à l'Élysée en 2027?
Absolument. Je pense qu'il est temps de mettre...
C'est le moment où il s'en va en catimini sur la pointe des pieds, Fabrice Le Sachet.
Je pense qu'il est temps de mettre au pouvoir des gens qui ont fait leurs preuves.
À la tête d'une entreprise.
Qui sont un tout petit peu sérieux.
Vous nous le dites dans un instant. Notre voix de droite, Charles Consigny, dans un instant sur RMC. Il est 7h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Charles Consigny. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, c'était la nuit des Grammy Awards à Los Angeles.
La plus prestigieuse des cérémonies de remise de prix de l'industrie musicale, avec Wildflower de Billie Eilish, que vous entendez, élu chanson de l'année, Bad Bunny, lui, album de l'année. Mais au-delà du palmarès, quelques temps forts de la nuit. Bad Bunny, dont on parle, a reçu un prix en s'en prenant directement à la police anti-immigration déployée par Donald Trump.
I'm gonna say ice out.
Dehors ice, nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux. Un discours salué par le public, longue applause. Un public qui a apprécié aussi l'arrivée de Justin Bieber.
presque nu, habillé d'un caleçon, d'une paire de chaussettes et d'une guitare. Ça a marqué les esprits. Il était, ouais, il est allé à la salle, hein. Il veut que ça se sache clairement, Justin Bieber. Autre extrait de la nuit, Lady Gaga, qui rejoue son tube Abracadabra dans une version presque rock, déjantée. Lady Gaga, que vous entendez dans cette version d'Abracadabra, c'était sur scène cette nuit au Grammy Awards à Los Angeles.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53 et comme tous les lundis, voix de droite sur RMC. Ce matin, c'est l'avocat, la grande gueule, Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
58% des Français veulent un chef d'entreprise à l'Élysée. Et pour vous, c'est un grand oui.
Oui, parce que je pense que le monde politique a montré ses limites. Les Français sont passés sous la moyenne de l'Union européenne en PIB par habitant, selon en plus un classement qui est très bien fait puisqu'il prend en compte le niveau de vie réel des gens. Et donc les Français sont aujourd'hui moins riches que les Hollandais, les Danois, les Autrichiens, les Belges, et on est à peine au-dessus des Tchèques et des Slovènes. Donc il serait peut-être temps qu'on se réveille. Là, je constate que Sébastien Lecornu est salué pour avoir réussi à faire passer son budget. Et tout le monde politique se rengorge du grand talent et de la grande habileté de Lecornu. Mais en quoi a-t-elle consisté? Elle a consisté une fois de plus à vider les caisses. Et ça, il faudra que les Français le payent à la fin. Donc moi, je pense que le temps d'un grand changement est venu.
Le temps d'un grand changement qui serait incarné donc peut-être par un patron du monde de l'entreprise à l'Élysée. Ça changerait quoi?
Ça changerait beaucoup de choses. Vous savez, sous Giscard, la France était gouvernée globalement par des ingénieurs. Mmh. Ensuite, sous Mitterrand, on est passé à des avocats. C'était un peu moins bien, je sais de quoi je parle. Et ensuite, on est passé à des hommes politiques professionnels ou au mieux à des énarques qui ne savent qu'administrer. Moi, je pense que non seulement il faut des chefs d'entreprise, mais même je pense qu'il faut des entrepreneurs. Je pense qu'il faut des gens qui savent ce que c'est que d'avancer par vent contraire.
Pas juste des gestionnaires.
Pas juste des administrateurs. Je pense que, ou alors des très très bons patrons. Je pense que si on mettait Patrick Pouyanné, Luca Di Meo, des gens comme ça à la tête des ministères, on aurait probablement un pays qui est mieux tenu.
Souvenez-vous, qui serait mieux tenu. Pompidou, c'était un agrégé de lettres.
Mmh. Oui, mais Pompidou était. Alors, je vous dis pas qu'il ne faut que des gens comme votre invité d'il y a un instant.
Monsieur le sachet numéro 2 du MEDEF.
Il faut, que, comme dans toute chose, un panachage. Après, Pompidou était aussi banquier d'affaires. Bon, ça, banquier d'affaires, on voit que ça marche ou ça marche pas. Hein. C'est pas une règle universelle. Je pense qu'il faut à la fois des gens, effectivement, cultivés, mais aussi des gens qui ont fait leurs preuves et qui sont moins désinvoltes. Je pense qu'il y a de la désinvolture dans la classe politique.
Vous pensez qu'avec un Pouyanné, comme vous dites, à Bercy, ou alors même un Michel-Édouard Leclerc ou un Xavier Niel, voire même un Mathieu Pigasse, banquier de gauche, à l'Élysée, ça changerait les choses?
Non, parce qu'il ne faut pas de dirigeants d'entreprise qui aient les travers déjà des hommes politiques.
Et ces trois-là, ils les ont déjà?
Pas les trois, mais par exemple Mathieu Pigasse, je crains que son gauchisme me rappelle furieusement la gauche caviar et certaines postures de gens qui culpabilisent d'avoir gagné de l'argent et qui sont pris dans des contradictions qui les amènent à dire des choses qui font plaisir à la presse à la presse bobo.
Une posture morale.
Je ne sais même pas si c'est conscient ou non d'ailleurs, mais ça me paraît pas très intéressant.
Bon, bah alors attendez, qui?
Je vous les ai cités. Pouyanné, Di Meo, Bernard Arnault.
Arnault, président.
Mais bien sûr. Regardez ce qu'il a fait avec. Je veux dire, oui, effectivement, un second tour Bernard Arnault, François Ruffin, ça surprendrait. Hein, je vous l'accorde. Mais je pense que je veux des gens, moi, qui aient fait leurs preuves. Mais ça peut être des patrons de l'aéronautique. Souvenez-vous qu'on parlait beaucoup de Louis Gallois à une époque, qui était très salué. Souvenez-vous qu'on a voulu nommer Louis Schweitzer Premier ministre il y a pas très longtemps.
L'ancien
patron de Renault. Donc je pense qu'on a des profils intéressants dans le privé, mais qu'il faut arrêter avec cette classe politique qui fait mumuse avec l'argent et l'avenir des Français.
Merci Charles Consigny, avocat et voix de droite d'RMC. GG, évidemment. Un second tour Bernard Arnault, François Ruffin, imaginé donc par notre Charles Consigny. Il est 7h57. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le journal de 8h. Plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales pour les musiques. municipale, mode d'emploi dès le début du journal. Il y aura aussi la météo, il continue à pleuvoir. Et puis juste après le journal, l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, l'entreprise Brandt peut-elle être reprise?
Mais oui, on peut encore espérer sauver Brandt.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales? C'est la dernière semaine pour le faire et pouvoir voter aux élections municipales. C'est le rush, vous verrez en ce moment dans les mairies. On va vous raconter dans ce journal cette arnaque qui émeut et scandalise à Nice, la carte d'identité d'une victime de l'attentat de la promenade des Anglais utilisée dans le cadre d'une fraude. Et on va se demander aussi si le vélo fera bientôt son apparition aux Jeux Olympiques d'hiver.
C'est la course en ce moment dans les mairies pour s'inscrire sur les listes électorales.
Oui, 5000 demandes ont été recensées depuis le début de l'année à Bordeaux, environ 1 million à Reims. Même constat à Nantes, à Toulouse. D'après RMC, les informations que nous avons recueillies pour s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter donc au municipal du mois prochain, c'est la dernière semaine pour le faire. Il y a jusqu'à mercredi sur Internet, jusqu'à vendredi en mairie. Et il y a des actions absolument partout en France. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, nous dit Léonie Guilbeault pour RMC.
Tract à la main sur un marché parisien, les membres de ce collectif citoyen interpellent les passants avec une question.
Est-ce que vous êtes bien inscrite sur les listes électorales?
Non.
Et si vous voulez vous inscrire, il faut vraiment le faire parce qu'après, ça sera trop tard.
Je vais m'en occuper aujourd'hui.
Voilà. Une piqûre de rappel bien utile aussi pour Paul qui vient de déménager.
Je viens d'acheter, donc c'est vrai que j'étais un petit peu sous l'eau, donc j'ai pas forcément pensé tout de suite, quoi.
Et si vous ne savez pas si vous êtes inscrit?
J'ai même le QR code là qui permet que vous vérifiez votre inscription.
Alors on vérifie.
Alors, commune de Malakoff. Vote au bureau numéro 21. Voilà, c'est bon.
Partout en France, des initiatives sont mises en place. Des porte-à-porte sont organisées par des collectifs dans des cités universitaires. Même les applications de rencontres partagent à leurs utilisateurs un guide pratique pour s'inscrire sur les listes. Les mairies aussi vont au contact des habitants, comme à Marseille.
Alors aujourd'hui, on est dans le bus de la mairie mobile.
Alexandre est coordinateur de ce bus où chaque jour, des habitants du quartier viennent s'inscrire sur les listes électorales.
Là, ils voient que la mairie est devant chez eux. Ça enlève cette barrière de la distance. En fait.
Selon la mairie de Marseille, depuis un an, 36 000 nouvelles personnes se sont inscrites sur les listes électorales.
Hier, c'est un élu, un député UDR soutenu par le RN qui a remporté l'élection législative partielle en Haute-Savoie, la circonscription à la frontière suisse, 59%. Donc pour ce candidat qui devient député, le Front républicain n'a pas fonctionné. C'est la première fois que l'extrême droite remporte un siège de député dans ce département. Et Jordan Bardella, qui sera l'invité de RMC d'Apolline hein, tout à l'heure, y voit un signe d'espérance à l'approche des municipales. La politique, c'est certainement aussi ce matin la fin du feuilleton du budget avec l'examen des deux motions de censure déposées par le RN et les communistes après le troisième recours au 49-3 pour le budget. Un rejet, comme les deux premières fois, si tel est le cas, eh bien sera synonyme d'adoption définitive de ce texte. Ça, c'est le combat, et on en parle ce matin, le combat de nombreux élus dans les zones blanches. Depuis ce week-end, sachez qu'il n'est plus possible de souscrire un abonnement ADSL. Le souci, c'est que seulement 80% du territoire est relié à la fibre, là, au moment où on se parle, si bien, et c'est ce qu'on vous raconte depuis tôt ce matin, donc sur RMC, si bien que certains optent pour le réseau Starlink du milliardaire Elon Musk. Marion Gauthier pour RMC.
L'antenne Starlink est plate, carré blanc sur un toit de tuiles. Elle couvre toute l'exploitation de Vincent.
Il suffit d'allumer, on attend les 10 secondes et tout est réactif et tout est rapide, quoi. Avant, il fallait attendre très longtemps et on n'était pas sûr que ça arrive.
L'agriculteur aurait pu avoir la fibre, mais il devait faire monter le câble de la route jusqu'à sa maison par un chemin privé. 6 000 euros à ses frais contre 700 pour installer Starlink.
Le seul côté négatif, c'est que c'est une entreprise qui appartient à Elon Musk, qui fait un peu ce qu'il veut au moment où il veut. On est dépendant de ça.
Ça me gêne, admet-il, mais on n'a pas le choix. Avec le bouche à oreille, on a largement dépassé la centaine d'installations Starlink, estime le gérant d'un magasin voisin du Gers. Quant à Monnetet-sur-Loire, dans l'Allier,
allô ?
Seul le téléphone passe bien chez le maire Yves Plouinec. Certains de ses administrés ont opté pour cette solution satellite.
C'est pas normal qu'en 2026, les gens sont encore obligés de payer du matériel qui vient d'Amérique. Nous, à la campagne, on est vraiment les oubliés.
Internet, enjeu de souveraineté, dit-il, et d'attractivité pour que des jeunes s'installent dans les petites communes.
La liste s'allonge ce matin avec de nouveaux rappels de lait infantile, de l'eau, de la marque de premier âge, de la marque Popote, qui invoque l'abaissement du seuil pour la toxine incriminée au moment donc de rappeler ces deux lots de lait premier âge. La famille du petit Émile demande des investigations complémentaires pour relancer l'enquête sur la mort du petit garçon. Souvenez-vous, à l'été 2023, au Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence, les avocats des grands-parents, précisément, qui demandent de procéder à des compléments d'audition de témoins et d'approfondir l'étude de la téléphonie. Il faut que vous y écoutiez, tiens, ce matin, l'indignation à Nice, bientôt 10 ans après l'attentat de la promenade des Anglais. Bientôt 10 ans après, eh bien, un homme a tenté de frauder dans les transports en commun de région parisienne en utilisant la carte d'identité d'une victime de l'attentat de Nice, Inès Zegloul.
C'est à bord d'un train en banlieue parisienne que l'individu est contrôlé. En sa possession, relate le Parisien, une pièce d'identité, ancienne génération, un prénom, Ludovic, et une photo, celle de cet adolescent fauché sur la promenade des Anglais, il y a bientôt 10 ans. Très vite suspecté de fraude, l'homme qui croyait berné, l'agent, est emmené au commissariat en garde à vue. Il avoue, sur conseil d'un ami, dit-il, il aurait téléchargé la carte d'identité accessible en ligne depuis qu'elle y avait été postée par les proches du défunt qui lançaient un appel à témoins au lendemain de l'attentat.
C'est une façon horrible de replonger la famille.
Immoral, insupportable, commente Hajer Benaouissi, elle-même rescapée et fondatrice d'une association de victimes.
Toutes ces familles qui peuvent maintenant avoir peur que leur mort soit utilisée pour des fraude ou autre. Là, vraiment, la justice, elle doit prendre une décision exemplaire qu'il y ait cette circonstance aggravante de ce trouble moral qui a été infligé. Voilà.
Contacté par RMC, le parquet en charge du dossier ainsi que la préfecture de police n'ont pas répondu à nos sollicitations.
Il y a deux sportifs qui sont entrés dans l'histoire durant le week-end et qui ont encore les honneurs des journaux ce matin. L'Espagnol Carlos Alcaraz, qui a remporté l'Open d'Australie de tennis, son 7e tournoi du Grand Chelem, en avance sur les temps de passage de Nadal ou Federer. Et il y a aussi le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, le petit-fils, vous savez, de Raymond Poulidor, qui est devenu champion du monde de cyclocross pour la 8e fois aux Pays-Bas. Le cyclocross, pour ceux qui connaissent pas, c'est du vélo dans la boue, dans les sous-bois, discipline ultra-télégénique qui se pratique en hiver et qui rêve d'ailleurs, eh bien, d'être intégré au programme des Jeux Olympiques d'hiver. Pas les prochains, mais ceux de 2030 en France, Kevin Morand.
Oui, le cyclocross et ses musiques festives. Rythme l'hiver ici aux Pays-Bas et en Belgique voisine, avec encore plus de 40 000 spectateurs hier pour les mondiaux, dont des Français comme Pierre et Maël, pour qui le cyclocross aux Jeux Olympiques.
On est totalement pour.
Parce que c'est une bonne discipline d'hiver, il y a un bon engouement.
On peut être dans la neige, dans le sable. Du coup, pour moi, c'est une évidence, ça devrait être aux Jeux Olympiques.
Avec des cyclistes à pied pour passer les obstacles dans la boue, le vélo sur l'épaule, le cyclocross a de quoi séduire. Vice-champion du monde espoir à 19 ans, Aubin Sparfel se projette déjà.
J'en ai beaucoup parlé avec le sélectionneur d'équipe des France. Je pense que je serai dans l'âge parfait, on va dire, donc je vais pas lâcher le cyclocross.
Le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, pousse pour sa discipline.
Sport d'hiver dans les Jeux d'hiver, c'est pas incongru. Surtout avec autant de public, autant d'enthousiasme. Et puis surtout, il y a des stars.
L'octuple champion du monde, Mathieu Van Der Poel, aura lui 35 ans en 2030, mais ne dit pas non.
D'abord, on va voir si ça va devenir olympique et après, je peux encore décider.
Ouais, je pense que ça serait joli pour le sport.
Le comité international olympique validera en juin le choix des trois sports additionnels.
Mais alors avant 2030, il y a les Jeux de Milan Cortina qui commenceront vendredi sur RMC Radio officielle avec l'objectif qui est fixé ce matin de finir dans le top 5 au classement des médailles.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, la métropole d'Orléans a déposé une offre pour la reprise des actifs de Brandt.
Oui, un mois et demi après la liquidation prononcée par le tribunal, les investisseurs intéressés par la reprise des usines et marques Brandt, c'est donc Brandt, mais aussi Vedette, Sauterre, De Dietrich, avaient jusqu'à jeudi pour se manifester. Et ce qu'on a appris ce week-end, c'est que parmi ces offres, il y a celle de la métropole d'Orléans, qui effectivement est un peu une offre filet de sécurité, c'est-à-dire que si aucune autre offre française n'est retenue, eh bien ce sera celle de la métropole d'Orléans qui viendra
à l'offre. C'est l'offre balai, quoi.
Ouais, c'est l'offre balai, exactement, parce que pour le moment il y a deux autres offres qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'entreprise bretonne Ever Ever, jeune pousse positionnée sur l'électroménager durable, a un beau projet, mais sa capacité financière est limitée. L'homme d'affaires Stéphane Français, lui, patron de Thomson Consulting, a une étoffe financière plus importante, mais son projet qui consiste à vouloir finalement mêler l'activité historique de Brandt à des produits informatiques est aussi très ambitieuse.
Est-ce que c'est raisonnable de croire au sauvetage de Brandt?
Ben oui, c'est possible, hein, parce qu'il y a des exemples européens et français, d'abord de sociétés d'électroménager qui marchent très bien malgré la concurrence asiatique en se positionnant sur le haut de gamme. C'est le cas de Miele en Allemagne, de Seb en France, parce que ces marques sont encore connues, hein, elles ont une valeur, parce que la sensibilité au Made in France, à la durabilité des produits, même si ces produits sont plus chers, eh bien, cette sensibilité a augmenté chez les des Français, parce que globalement la compétitivité prix des produits français s'améliore par rapport aux concurrents, c'est ce que nous a dit Rex et Code la semaine dernière. Et puis par contre, aucun espoir si c'est pour faire du low cost low tech.
Du low cost low tech.
Oui.
Ça marchera.
Alors le marché, le bas de gamme, pas très sophistiqué, où on cherche les prix. Non, il y a plus de débouchés pour les.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Mathieu, la proposition du MEDEF d'un CDI jeune fait beaucoup réagir les auditeurs.
Ralph nous écrit, moi je ne comprends pas le principe de payer moins les jeunes que le SMIC. Alors j'entends ce patron d'entreprise dire que si le jeune n'est pas compétitif, c'est compliqué de s'en séparer. Mais en attendant, même s'il n'est pas compétitif, il travaille pour l'entreprise, il doit gagner minimum le SMIC. Voilà ce que pense Ralph. Benoît nous dit, et la période d'essai pourtant c'est fait pour ça. Christophe écrit, il existe le CDD pour voir si un jeune ferait l'affaire. Guillaume nous dit, je suis prêt à embaucher des jeunes. Effectivement, la flexibilité, elle, est intéressante, mais par contre les payer moins, c'est totalement ridicule, faut payer au moins le SMIC, voilà ce que pense Guillaume, et il l'a écrit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Christian nous écrit, le MEDEF se fourvoie encore sur la motivation des jeunes. L'apprentissage donne déjà des jeunes payés à 800-900 euros pendant 2 ans. On ne peut pas demander à des jeunes d'être qualifiés et payer 3 francs 6 sous en permanence. Que l'État baisse les charges des entreprises, nous écrit Christian ce matin sur le WhatsApp RMC.
Restez bien avec nous dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint, et puis notez qu'à 8h30 mon invité, ce sera Jordan Bardella. Juste après, vous aurez aussi Nicolas Cantelou et ses imitations, bien sûr, comme tous les jours, à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour les amis. Ça fait du bien d'attaquer une nouvelle semaine avec vous sur RMC. RMC, la seule radio qui ne vous parle pas de Pierre Ninet toutes les 3 minutes. Non, mais c'est fou en ce moment. T'allumes un écran, boum, il est là. C'est le Alain Bauer du cinéma. Je n'en peux plus. Je mange Pierre Ninet, je dors Pierre Ninet. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme. Elle m'a dit, à quoi tu penses? J'ai même pas osé répondre. Il est obsédant, ce type. J'adore Pierre Ninet, hein, mais bon, j'aime aussi le chocolat. C'est pas pour autant que j'en bouffe 12 kilos par jour. Et alors, il y a une autre personnalité du cinéma qui a saturé l'espace médiatique ce week-end, c'est Melania Trump.
Ah oui.
Le documentaire Melania sur la première dame américaine est sorti dans 5000 salles dans le monde, mais pas en France. Mm. Eh ben super, merci. Mm. On se tape 5 films par an avec Pierre Ninet, mais un documentaire... mais un pauvre documentaire sur Mélanie, on va devoir attendre qu'il passe sur Prime Video si on veut ne pas le regarder.
Voilà.
Alors Trump a tweeté que le film était exceptionnel, à voir absolument.
It's good, good.
Good, good. Wonderful. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour coucher à nouveau avec sa femme,
hein. Oh.
En tout cas, le film aura rapporté 40 millions au couple. Il doit être content, en fait, Trump, d'avoir acheté Melania il y a 40 ans. Il y a 20 ans, pardon. Non, mais 20 ans, hop, et puis 40 briques après, pouf, un bon investissement, quoi. Bon investissement. Ah
ouais, c'est moi, la chronique éco.
Je suis éclaté. Moi, j'irai pas le voir, hein, ce film sur Melania. Désolé, regarder une femme glaciale faire la gueule pendant 1h30. J'en ai déjà vu plein, des films avec Isabelle Huppert. Quitte à voir un film avec un cyborg qui a pas d'âme et qui vient d'Europe, autant se refaire Terminator, quoi. Là, ça a vraiment l'air long et chiant. Il faudrait qu'elle prenne exemple sur Brigitte Macron. Brigitte, c'est fun, tu la filmes 30 secondes dans les coulisses d'un théâtre, il se passe des trucs, je soutiens Harry Habitant, les féministes c'est des sales connes, etc. On n'a pas le temps de s'ennuyer. T'imagines le film de Brigitte, 20 jours non-stop.
Allez, Brigitte le film, première, Brigitte, action. Aïe,
c'est le clap. Alors, je fais quoi? J'arrive pas à me concentrer. Il y a l'odeur des intermittents en plus. Ici, ça pue les gauchistes.
Non, Brigitte, ça tourne là.
Au fait, cet après-midi, je te préviens, je tourne pas. Hein. Je rends visite à Joël Guerrillo avec Morandini. Oh, le 06 de PPDA, on aimerait l'inviter. Hein, en 2 minutes, il se passe déjà plus de trucs qu'avec Mélania.
Un coup de tonnerre, Arnaud, s'est produit ce week-end dans la campagne présidentielle pour 2027.
Oui, c'était un week-end choc. Ouais. Une journée charnière. Apolline, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate.
Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Ça fait quelque chose. C'est fou, hein, le parcours de Lucie Castet. Quel destin. Il y a un an, personne la connaissait, tout le monde s'en foutait, et maintenant, regardez, tout le monde s'en fout aussi, sauf qu'on la connaît. On n'avait pas vu une telle carrière politique depuis Stanislas Guérini. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, Stanislas Guérini aussi renonce à 2027.
Oh non, me dites pas ça.
Et à 2032. Oh. Il ne l'a pas déclaré encore, je le fais à sa place, hein, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Arnaud, 3 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein ont été divulgués par la justice américaine.
Et c'est atroce. On lit des monstruosités sur les célébrités qui se rendaient dans des soirées de débauche,
Moi, j'ai épluché quelques pages en me disant pourvu que Thomas Pesquet soit dedans. Eh bien, figurez-vous que ce salaud n'y est même pas. Il n'y a vraiment décidément rien à lui reprocher. Monsieur parfait. Épuisant.
Vous sinon, faites une petite obsession peut-être sur Thomas Pesquet et Pierre Ninet.
Hein, les deux. J'arrive pas à les détester. Sinon, il y a énormément de célébrités. Donald Trump, le prince Andrew, c'est accablant pour eux. Ils sont à un point où Bolloré peut leur proposer une quotidienne. Et sur Twitter, dans les forums, j'ai vu aussi Woody Allen, Bill Gates, Cyril Ferraud. Grosse surprise, les photos de Cyril Ferraud tout nu avec les nains de Fort Boyard et Nagui. Vous avez vu ça? Ah ça, non. C'est pas Théo Curin qui aurait eu les mains baladeuses comme ça. Hein.
Pareil,
les vidéos entre Jeffrey Epstein, les frères Lebrun et Lynn Renault.
Oh non.
Énorme choc. Vous savez pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec du maroil et des raquettes de ping-pong.
Oh,
t'es au courant? Et alors les photos de Bill Gates avec Jean-Jacques Goldman, alors là c'est le pompon. Surtout la partie avec la crème fouettée, les pinces à linge, les tuyaux en plastique, le lubrifiant et les hamsters. Et Michel Drucker qui filme, alors vraiment c'est épouvantable. Attention, il paraît qu'il y a beaucoup de témoignages farfelus dans les 3 millions de pages. La séquence zoophile avec Danny Boone et Grand Corps Malade,
non,
c'est peut-être un fake. Attention à ce que vous lisez sur Internet.
Allez, ce que demain. Vous entendez sur RMC.
Gros bisous.
Merci Arnaud demain. Je vous retrouve à tout moment en
et
podcast. Sur RMC.
Détendez-vous sur RMC avec Soupe de Com, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, mon invité sur RMC BFM TV, c'est Jordan Bardella, le patron du RN. Mais d'abord, je voudrais accueillir Valérie qui nous appelle au 3216 depuis Aix-en-Provence. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Apolline.
Valérie, vous êtes responsable d'un cabinet de recrutement et précisément, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce CDI jeune que défend le MEDEF.
Alors, le CDI jeune, il y a du pour et il y a du contre. À mon avis, effectivement, sur la flexibilité, je me dis que ça peut peut-être être un moteur pour permettre aux entreprises de se lancer.
D'oser, quoi.
Mais voilà, mais bon, la rémunération, j'en parle même pas, pour moi c'est juste aberrant parce que je vois pas comment on peut vivre avec
un sous-smic.
Voilà, exactement, ça me paraît juste pas possible. Mais par contre, il y a un autre point qu'il faut que les gens comprennent, c'est que moi, sur les candidats que j'ai au quotidien, avant d'être dans un cabinet de recrutement, j'étais dans de l'intérim, j'étais plus de 15 ans. En fait, la moitié des gens, jeunes ou pas d'ailleurs, ne veulent pas de CDI. C'est pour ça qu'on a des CDD, de l'intérim tout le temps, parce qu'en fait, au final, les attaches...
Ça n'est plus le Graal, non ?
Non, c'est plus le Graal, du tout. Alors, je dis pas pour tout le monde, hein, évidemment, dans certains cas...
Mais c'est pas le CDI ou rien, comme ça pouvait être avant ?
Ah, plus du tout, plus du tout. Et aujourd'hui, si on dit un CDI avec progressif sur 3 ans, quand on regarde la moyenne que les gens passent dans la même entreprise aujourd'hui, c'est pas les 25, 30 ans ou toute une vie d'avant, c'est 3 à 5 ans maximum.
Ouais. Donc en réalité, la durée et effectivement la constance ne sont plus des objectifs en fait pour ceux que vous embauchez. C'est super d'avoir votre témoignage, Valérie, qui justement s'occupe de recruter les jeunes. Et ben vous savez quoi, je poserai aussi la question dans un instant à mon invité, le patron du RN, c'est Jordan Bardella. Tous les sondages le donnent gagnant, quelle que soit la configuration pour les élections de 2027. D'ailleurs, qu'il soit à la place de Marine Le Pen ou pas, et les idées du RN n'ont jamais trouvé autant d'adhérents dans le pays. Je lui poserai notamment la question de ce CDI jeune, mais aussi de savoir quelle relation il entretient avec la position de Donald Trump sur le reste du monde. Il avait acclamé l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Qu'en pense-t-il aujourd'hui ? Il est 8h20, on se retrouve dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h26 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour madame, merci pour votre invitation.
Merci à vous d'y avoir répondu et d'être présent ce matin. Vous êtes président du RN, vous êtes député européen, de très nombreuses questions à vous poser, d'ailleurs sur la France et sur le monde. Mais c'est vrai que quand on regarde tous les sondages, alors quelle que soit la configuration, vous êtes donné gagnant. Que ce soit vous ou Marine Le Pen, surtout vous d'ailleurs. Les idées du RN n'ont jamais été aussi partagées par les Français. Comment vous vivez ça ?
Avec beaucoup d'humilité et surtout une très grande responsabilité. Chaque jour qui passe, nous nous préparons à exercer le pouvoir. Il y a une attente très forte aujourd'hui dans le pays d'une alternance, d'un changement sur la politique économique, sur la politique sécuritaire, migratoire, sur la défense des intérêts de la France en Europe, mais aussi dans le monde. Et nous nous efforçons de porter en France cette voix du peuple, cette voix de la fierté française et de cette aspiration à la puissance qui s'exprime en France, mais qui s'exprime aussi dans toute les grandes démocraties.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire rater la marche?
Tout, madame. L'élection est un long chemin. L'élection présidentielle et législative sont un chemin de croix. J'ai toujours considéré que le pouvoir ne nous serait jamais donné, qu'il serait conquis de haute lutte. Et donc, nous travaillons non seulement pour faire connaître aux Français nos propositions, mais surtout pour rassembler les Français. Je pense qu'il y a un besoin d'unité aujourd'hui dans le pays. Et moi, je veux convaincre aussi les Français qui ont encore des hésitations ou des craintes à l'égard des idées que je peux porter, que si le redressement des nations est possible dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays du monde, alors il est aussi possible en France.
On va y revenir avec évidemment aussi la question en toile de fond de l'avenir judiciaire de Marine Le Pen. Ça se joue aujourd'hui même, hein, le dernier jour avant les réquisitions demain. Mais d'abord, effectivement, vous parliez de la question de la puissance dans le monde. L'Iran, désescalade entre Donald Trump et le pouvoir iranien, signe d'apaisement, si on peut dire comme ça, côté iranien, puisque les exercices militaires dans le détroit d'Ormuz qui étaient prévus ont finalement été annulés. Et du côté de Donald Trump, ce qui apparaissait comme un préalable, c'est-à-dire le changement de régime, n'est finalement plus exigé par les États-Unis pour pouvoir discuter. Donc l'intervention, elle semble s'éloigner. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Rares sont les interventions militaires américaines qui se sont soldées par la démocratie. On se souvient, il faut avoir de la mémoire lorsqu'on fait de la politique à ce niveau, on se souvient des interventions en Afghanistan, on se souvient de l'Irak, on se souvient sur un plan un peu plus proche de chez nous de la Libye. Rares sont les interventions militaires extérieures qui se sont soldées par la démocratie. Il y a encore quelques jours, l'intervention militaire au Venezuela a entraîné la chute du dictateur Maduro, mais on voit que le régime, il est aujourd'hui toujours en place. Donc moi, je suis extrêmement prudent à l'égard de toute forme d'intervention militaire dans des zones qui sont des zones extrêmement compliquées, extrêmement périlleuses. Et j'aimerais dire que la France et l'Europe doivent, au-delà de tout cela, dénoncer sans réserve la répression extrêmement brutale qui s'abat aujourd'hui
sur
le peuple iranien.
Mais si on dénonce et qu'on fait rien ?
Nous devons d'abord être solidaires à l'égard du peuple iranien, le redire, qui se bat, c'est vrai, pour sa liberté et pour sa dignité. Et je pense que le rôle de la France, puisque moi j'aspire à être dirigeant politique français, c'est d'être une puissance d'équilibre. Solidarité envers les manifestants, fermeté envers le régime. Je soutiens et j'ai soutenu l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne. Nous devons évidemment faire le nécessaire pour protéger nos ressortissants et mettre en œuvre des pressions diplomatiques et économiques sur le régime des Mollahs, qui est un régime terroriste, qui est le sponsor du terrorisme non seulement en Europe. Je vous rappelle que il y a eu ce projet d'attentat, cet attentat sur le sol français en 2018 à Villepinte contre ce qui était considéré comme des résistants au régime iranien. Et puis il y a eu évidemment ce sponsor du Hamas lors des ignobles attaques qui ont visé Israël le 7 octobre 2023 par l'Iran.
Donc
l'Iran est une dictature islamique. On ne se contente pas de mots. Nous pouvons mettre en œuvre des pressions économiques, des pressions politiques, des pressions diplomatiques. Mais c'est vrai que nous sommes, nous, extrêmement vigilants quant à une éventuelle intervention militaire. Parce que ce que nous ne savons pas en réalité dans le cadre des exercices et aujourd'hui des opérations militaires qui sont menées autour de l'Iran par le président Trump, quel est l'objectif et le périmètre d'une potentielle intervention? Est-ce que c'est cibler le nucléaire militaire? Est-ce que c'est cibler le guide suprême? Est-ce que c'est frapper les gardiens de la Révolution? Nous n'avons pas la réponse aujourd'hui.
Il vous fait peur, Donald Trump?
Non, il ne me fait pas peur.
Dans son agitation?
Certain que le président Trump a, je dirais, un côté très, très incertain et très imprévisible dans les actions qu'il peut conduire. Moi, je pense qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Sans doute dissimule-t-il cela par des revirements de postures.
Il n'est plus votre modèle.
Des postures. Mais ça n'a jamais été mon modèle.
Vous avez plusieurs fois dit que c'était une chance, y compris pour la France.
Pas du tout. J'ai précisément indiqué que le vent de liberté qui soufflait sur les États-Unis d'Amérique ne devait pas faire de nous des êtres naïfs et que si Trump était bon pour l'Amérique, alors il serait mauvais pour la France et pour l'Europe. J'ai entendu ce matin sur votre
l'élection antenne. De Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Ça, c'était Marine Le Pen. C'était pour le premier mandat.
Merci.
Tout à
donc
fait.
Quelle année?
Le premier mandat. Je n'ai plus en tête exactement,
voilà.
Mais c'est
en 2016.
Ah,
absolument. Donc, on parle du premier mandat à l'époque où le président Trump n'était pas interventionniste, à l'époque où il envisageait de retirer les troupes militaires.
Pour vous, il y a le Donald Trump de 2016
engagé dans le monde, d'une part.
Qui était un allié, celui-ci ne l'est plus.
Deuxièmement, madame, il était opposé à l'accord de libre-échange l'accord du TAFTA, qui était un accord de libre-échange avec l'Amérique, et qui évidemment menaçait l'industrie, l'économie et l'agriculture. Il y était opposé à l'époque. Mais c'est vrai que le mandat de Donald Trump, tel que nous le vivons depuis un an, est de manière significative très différent du premier mandat de Trump que nous avons
vécu. Jordan Bardella, est-ce que...
Je ne retire pas un mot des propos que j'ai pu tenir depuis l'élection de Trump, pour une raison très simple. Et j'ai entendu ce matin l'édito d'une de vos journalistes qui a dit beaucoup de bêtises sur le sujet. Je ne retire pas un mot parce que précisément, il se passe exactement ce que j'avais indiqué. Bah, écoutez, sur votre antenne, en novembre 2024, j'avais indiqué que l'élection de Trump devait être une opportunité pour l'Europe de retrouver notre souveraineté et notre indépendance. 8 jours après l'élection de Trump, le 13 novembre 2024, au Parlement européen, j'ai indiqué la chose suivante. Face à Trump, réveillons-nous ou bien nous disparaîtrons. 24 heures après l'investiture de Trump, au Parlement européen toujours, l'Amérique de Trump lance un défi de puissance à la France et à l'Europe. Réagissons ou bien nous sortirons de l'histoire. Et j'ai critiqué, madame, avec beaucoup de détermination, l'accord commercial qui a été négocié par l'Union européenne et les États-Unis à l'été dernier, qui est un accord qui acte la vassalisation économique, à notre demande aussi, la vassalisation économique de l'Europe. Donc, moi, ma seule boussole, madame, en politique étrangère, c'est que la France redevienne un pays non aligné, qu'elle soit capable de parler à tout le monde, qu'elle ne se soumette à personne et qu'elle défende ses intérêts.
Question
d'abord.
Précisément, est-ce que face à ce désordre du monde, quand vous dites l'Europe doit se réveiller, est-ce qu'il ne faut pas plus d'Europe?
Mais l'Union européenne...
Est-ce que la France peut rester seule?
Mais l'Union européenne, d'abord, la France n'est pas seule. La France œuvre et travaille aux côtés de nations européennes. Mais nous retrouverons ce goût et cette aspiration à la puissance, que ce soit pour la France ou pour les nations européennes, en changeant le fonctionnement aujourd'hui de l'Union européenne qui organise l'impuissance collective, qui nous a pieds et poings liés, notamment sur les règles commerciales, qui fait qu'aujourd'hui, dans les marchés publics, par exemple, liés à la défense, on ne peut pas donner une priorité d'accès aux boîtes européennes. Enfin, je vous donne un exemple très concret. C'est ça aussi l'Union européenne. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 80% des hausses de dépenses militaires qui ont été mises en œuvre dans les différents États membres l'ont été au profit de sociétés extra-européennes et notamment de sociétés américaines. Donc je leur dis non seulement acheter français, mais je viens leur dire que la France doit prendre l'initiative d'une nouvelle architecture européenne, d'une nouvelle forme de construction européenne avec toutes les nations qui aspirent
à la place de l'Union européenne,
à la puissance, bien sûr. En vertu du rôle historique de la France sur le continent européen, avec comme projet de briser l'encerclement aujourd'hui dans lequel est empêtrée l'Union européenne, avec à l'Ouest, j'en termine madame, avec à l'Ouest une vassalisation technologique et militaire à l'égard des États-Unis, à l'Est une vassalisation industrielle à l'égard de la Chine et des pressions migratoires toujours plus fortes au Sud. Mais il reste toutes les nations européennes qui entendent se joindre à la France pour prendre l'initiative d'une nouvelle forme de coopération européenne qui soit basée non seulement sur le respect des souverainetés, mais qui puisse nous permettre de réaffirmer notre puissance.
C'est quoi, c'est le retour au traité de Rome? C'est l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne, c'est quoi?
Mais il faut se mettre autour de la table en déterminant des objectifs communs. L'indépendance passera d'abord par la croissance. Et je me permets de vous rappeler que lorsque le président Trump a été élu, j'avais moi-même demandé au Parlement européen la suspension du Green Deal, c'est-à-dire du pacte vert et de la multiplication des normes toujours plus lourdes, de la paperasse qui pèse sur nos chefs d'entreprise, que ce soit les petites entreprises, les ETI ou les grands groupes. Si on veut être indépendant demain, on a besoin de produire en France, on a besoin de produire sur le sol européen, et c'est la raison pour laquelle moi je demande non seulement qu'on arrête la naïveté commerciale, qu'on soit capable d'utiliser des droits de douane lorsque notre industrie, par exemple automobile, est menacée, qu'on fasse de la préférence nationale et de la préférence européenne pour faire
mais
en sorte que...
Mais encore faut-il avoir des gens qui achètent. Je prends un exemple. Vous êtes monté au créneau sur LMB Aerospace, qui est donc ce sous-traitant du secteur de la défense qui a été autorisé à la vente pour les États-Unis. Mais il n'y avait pas de repreneur français?
Mais madame, pardon, d'abord...
Non mais je veux dire, vous pouvez pas inventer que ça reste français. Alors, si personne n'en veut.
D'abord, ce qui s'est passé avec LMB est bien la preuve que notre gouvernement n'a rien compris à la nécessité de la souveraineté et de la puissance. Parce qu'on nous parle matin, midi et soir de puissance, de souveraineté, de réindustrialisation. Or, on s'aperçoit que depuis bientôt 10 ans, Emmanuel Macron, et en l'occurrence ici Monsieur Lescure, ont été des liquidateurs. Ils ont vendu la France à la découpe. Je vous rappelle que le macronisme, ça commence avec la
vente de la branche énergie d'Alstom aux Américains
de
General Electric. Il y a deux personnes qui montent au créneau là-dessus, c'est Jean-Luc Mélenchon et vous.
Mais non seulement je monte au créneau, mais si j'avais été Premier ministre, le gouvernement français se serait opposé.
Mais oui, mais
à la vente de
comment vous pouvez vous opposer s'il n'y a pas de racheteur? En fait, tout ça est totalement théorique.
Non, pardon.
Il n'y avait pas de racheteur français.
Madame.
Vous pouvez pas l'inventer.
Madame, on ne parle pas d'une usine désaffectée. D'accord? LMB est la propriété, était, depuis 2022, d'un groupe, d'un fonds d'investissement, qui gère près de 50 milliards d'euros d'actifs, qui s'appelle Tikeo. Tikeo a racheté LMB, qui est une pépite de la souveraineté militaire et de la souveraineté industrielle de la France, qui équipe notamment en système de ventilation, les Rafales, le porte-avions, les chars Leclerc. Tikeo revend LMB 400 millions. Ça veut dire une plus-value de 100%, madame, en moins de 3 ans. Donc, on n'est pas ici dans le cadre d'une usine désaffectée.
Donc, vous encore auriez sanctionné organiser... Tikeo? Non. Vous lui auriez interdit de le vendre?
J'aurais mis, compte tenu de la nécessité stratégique d'avoir LMB dans le giron industriel français, pour nos armées, pour notre souveraineté, pour nos systèmes aériens, j'aurais effectivement, dans le cadre du décret Montebourg, utilisé les armes juridiques que me donne aujourd'hui l'État pour protéger la souveraineté de la France. Est-ce qu'on imagine, madame, le Pentagone ou des boîtes américaines hautement stratégiques liées à la défense des États-Unis d'Amérique se faire racheter par des sociétés chinoises ou par des sociétés européennes? Depuis 2014, madame, il y a 1500 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain. Donc moi, je ne me résous pas à ce que notre pays soit vendu à la découpe, parce que ça pose un enjeu très simple, celui de l'extraterritorialité du droit américain. Si demain, madame, LMB, qui produit des systèmes de ventilation et qui équipe nos Rafales, est propriété d'une entreprise américaine, et que, en vertu de l'extraterritorialité du droit américain, les États-Unis décident de mettre un veto sur des exportations de Rafales, au motif que le pays qui accueillerait ces Rafales serait en conflit avec les États-Unis d'Amérique, on fait quoi ?
On active ce qu'on appelle le golden share de l'État, qui est effectivement une des clauses. Mais en effet,
ça
pose une vraie question. Mais vous vous heurtez aussi au réel, qui est qu'il n'y avait pas d'entreprise française qui était prête à racheter.
Non, madame, c'est faux. Deux observations. La première, c'est que sur le golden share, qui est un mot qu'on a maquillé techniquement pour dire en gros que l'État peut monter au capital avec une action préférentielle. De manière très concrète, ce golden share dont a parlé Monsieur Lescure n'empêche ni le transfert de technologie, ni le transfert de brevets. Donc on voit bien que les grandes nations qui réussissent dans la mondialisation raisonnent en termes de souveraineté et en termes de puissance. Nous, on raisonne en termes de braderie et de transactions de l'industrie française, et je n'accepte pas cette logique.
Plusieurs questions.
C'est la raison pour laquelle, pardon, juste pour vous répondre très concrètement, si demain nous sommes à la tête du pays, nous mettrons en place un fonds souverain. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui conservent de l'épargne ou qui placent leur épargne sur le livret A et qui déplorent que cette épargne ne soit pas rémunérée. Moi, si demain je suis à la tête du gouvernement, je proposerai aux Français de devenir actionnaires de la Maison France et de placer pour les Français qui le souhaitent leur argent contre rémunération chaque année, encore une fois sur la base du volontariat, dans un fonds souverain qui aura vocation précisément à répondre à ce type de cas industriel, à financer la réindustrialisation, à financer l'intelligence artificielle, à financer la tech, à financer les grands projets qui doivent permettre à la France de redevenir une grande puissance, parce qu'encore une fois, moi je ne me résous pas à voir la France devenir un désert
Jordan
industriel.
Bardella.
Mon ambition, c'est la croissance, la production, la souveraineté, l'indépendance et la puissance.
Pendant ce temps-là, le budget donc devrait être adopté d'ici ce soir, malgré une motion de censure à nouveau déposée par vous, mais qui n'a aucune chance d'aboutir. Je préférerais donc passer à des questions aussi sur les municipales. Plusieurs questions. D'abord, une question très pratique que je pose à peu près à tous ceux
qui
sont...
On parle quand même d'un budget... qui est un budget qui dégouline d'impôts et qui va rentrer en application par le jeu d'alliance entre les Républicains.
Oui, mais on est d'accord qu'il ne se passera rien.
Et le Parti Socialiste. Mais ça va nous coûter combien?
Mais ça, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec ce budget.
Moi, j'entends beaucoup dire, un budget, c'est mieux que pas de budget. Oui, sur la rhétorique, c'est vrai. Mais entre un budget socialiste qui dégouline d'impôts, qui va augmenter les prélèvements obligatoires de près de 30 milliards d'euros, madame, avec de nouvelles taxations sur les entreprises françaises, enfin, rendez-vous compte. Encore une fois, on nous parle toute la journée de croissance, de réindustrialisation, de souveraineté, et de l'autre, on va augmenter la fiscalité sur les entreprises françaises. On nous dit que ça concerne les grands groupes, mais vous savez très bien que ça va concerner l'ensemble de la chaîne de valeur et que ce qui est taxable sur les grands groupes va évidemment
vous
se répercuter sur les ETI. Nous sommes opposés à ce budget et nous considérons qu'il faut baisser la fiscalité
à propos du MEDEF, Jordan Bardella, vous l'avez peut-être vu, il propose un CDI, il propose comme piste de réflexion un CDI jeune où il y aurait effectivement un SMIC moindre, un SMIC jeune, mais aussi des droits qu'on gagnerait sur 3 ans. Vous en pensez quoi de ça?
Je pense que c'est du nivellement par le bas et que ça n'est pas le sujet en réalité. Le sujet, c'est de permettre à chaque jeune Français de pouvoir vivre en France, de pouvoir travailler en France, de pouvoir gagner sa vie en France sans être accablé de normes, de taxes et d'impôts. Et je pense qu'il faut faire en sorte que les jeunes rentrent plutôt sur le marché du travail, et vous savez que nous portons comme ambition, sur le modèle suisse ou sur le modèle allemand, de revaloriser de manière significative à la fois l'apprentissage, mais dès le collège, les savoirs manuels, les métiers professionnels, parce que nous avons besoin, encore une fois dans une logique de réindustrialisation, eh bien d'avoir des jeunes qui soient formés à des métiers manuels et dont les filières sont valorisées et dont la France doit être fière.
Ce maire qui refuse de célébrer un mariage sous OQTF, il a une astreinte financière à partir de cette semaine de 500 euros par jour, qui passera même à 3000 euros par jour si le mariage n'est pas célébré. Est-ce qu'il faut qu'il continue à s'opposer à ce mariage et que sa commune paye ses astreintes?
D'abord, je lui apporte mon soutien et mes encouragements dans ce combat qu'il mène, qui est un combat admirable parce que c'est un combat au fond pour le droit. J'ai entendu, vous avez interrogé il y a quelques jours à ce même micro et sur cette même question Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui est un allié, l'ancien président des Républicains, qui a précisément porté à l'Assemblée nationale un projet de loi pour réparer ce qui apparaît aujourd'hui pour beaucoup de Français comme une anomalie juridique, une anomalie politique. À partir du moment où vous êtes présent sur le sol français, il y a 400 OQTF, 400 obligations de quitter le territoire français.
Entre deux droits.
Vous ne devriez pas pouvoir rester sur le sol français et encore moins pouvoir bénéficier.
Donc pour vous, il faut
qu'il
tienne et même qu'il paye. Grenoble, malgré la décision du Conseil d'État qui se prononçait contre en juin 2022, Éric Piolle affirme qu'en réalité, dans les piscines de Grenoble, il autorise le port du burkini et il vient de le redire dans une interview. Il y a donc une contradiction entre ce que lui impose le Conseil d'État et ce qu'il fait concrètement dans la ville. Est-ce que là aussi, est-ce que le maire doit quand même tenir sur sa propre conviction?
Il y a quelque chose de très révélateur, madame, dans cette interview, c'est que nous avons commencé l'interview en parlant de l'Iran et en parlant de ce peuple qui est en train de se soulever contre la dictature islamique. Et moi, je vois des pays dans le monde où des peuples ou des femmes retirent leur voile, sont battus à mort pour cela et se battent contre la dictature des islamistes. Pendant ce temps-là, en France, vous avez certaines qui non seulement se battent pour remettre le voile, mais vous avez des élus de gauche et d'extrême gauche qui, main dans la main avec les islamistes, sont dans la roue de toutes les revendications des frères musulmans et des fondamentalistes islamistes. Et ils le font en violation même de la loi, parce que le Conseil d'État et la justice administrative s'est déjà prononcé contre cette décision.
Donc on voit bien là un parallèle entre Éric Piolle et les Mollahs.
Oui, je pense qu'ils se font les relais en France, ces élus d'extrême gauche, des revendications des frères musulmans et des islamistes. Je vous rappelle, madame, qu'il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, nous avons permis l'adoption d'une résolution qui plaçait les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. La gauche a refusé de la voter. J'étais il y a quelques jours au Parlement européen à Strasbourg, où une mairie écologiste a fait voter une subvention de plus de 2 millions d'euros en violation totale de la loi, ça a été annulé par la justice, à une mosquée, la plus grande mosquée d'Europe, qui est sous la coupe du Miligoru, c'est-à-dire le bras armé des fondamentalistes islamistes de Turquie. Donc, la gauche française et la sphère islamiste sont aujourd'hui main dans la main contre la France, contre les valeurs républicaines. Et il y a évidemment un enjeu dans ces élections municipales, comme il y en aura un demain dans les élections présidentielles et les élections législatives. C'est un enjeu de civilisation. Et cette gauche-là, madame, elle a trahi la République et elle a trahi l'intérêt national.
Jordan Bardella, comment va Marine Le Pen?
Marine Le Pen est combative. J'aurai l'occasion de la voir ce matin. Nous parlons tous les jours. Elle mène un combat admirable et un combat exemplaire pour prouver son innocence. Et je souhaite de tout cœur qu'elle puisse porter nos couleurs lors de l'élection présidentielle.
Vous pensez qu'elle peut s'en sortir? Les réquisitions du parquet sont demain?
Oui, bien sûr, puisque d'abord, elle est innocente des faits qui lui sont reprochés. Et deuxièmement, il y a beaucoup de Français dans notre pays qui ne comprendraient pas que sur la base d'un désaccord administratif avec le Parlement européen, encore une fois, il n'y a ni emploi fictif, ni enrichissement personnel. On prive de candidature une patriote qui a toujours été en première ligne de la vie politique, qui est d'une intégrité totale, et qui n'a rien à se reprocher, et qui, encore une fois, est aujourd'hui donné gagnant de l'élection présidentielle.
Jordan Bardella, président du RN et député européen, merci d'avoir répondu
à
mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jordan Bardella était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Jordan Bardella. Éric Ciotti, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'interview de Jordan Bardella. Qu'en avez-vous pensé ?
Bonjour madame de Malherbe. Écoutez, j'ai écouté attentivement votre interview. Je partage les diagnostics de Jordan Bardella, bien évidemment. J'ai la même vision, le même amour de la France, le même discours, le même physique.
Oui.
C'est bien simple, lui et moi, on nous confond très souvent.
Ah bon ?
Mais oui, oui, mais ouvrez les yeux, oui. Madame de Malherbe. Hein, deux beaux bruns aux cheveux courts. Oui, d'accord, très courts.
Oui,
et court,
voilà.
Hein. Et puis bien bâti, d'origine italienne, hein, Ciotti, Bardella, hein, ça sonne ouais. Italie tout de suite, hein, bien sûr. Il y a de quoi se tromper. D'ailleurs, Jordan le sait, et je m'en excuse auprès de lui. C'est vrai que c'est pénible pour lui, toutes ces jeunes femmes qu'il arrête dans la rue pour prendre un selfie en pensant que c'est moi. Hein. Je m'en excuse. Non, la seule chose qui peut permettre de nous différencier, c'est que contrairement à moi, Jordan ne parle pas tous les jours de Christian Estrosi.
C'est vrai, c'est vrai, hein. C'est vrai.
D'ailleurs, je le dis, Jordan, pour être bien clair, je suis bien sûr toujours très intéressé par le poste de ministre de l'Intérieur si jamais il venait être élu, hein, donc en 2027. Donc, et je le ferai avec plaisir pour pouvoir arrêter les bandits de notre pays et surtout Christian Estrosi.
Il postule, hein, monsieur Bardella. Merci en tout cas, Éric Ciotti. Marine Le Pen, bonjour. Vous avez écouté l'interview de Jordan Bardella, bien sûr.
Oui, bonjour madame. Écoutez, j'ai écouté, bien sûr. Dois-je faire d'autre ? J'ai bien compris que c'était lui la vedette désormais. Et maintenant, j'ai bien compris que Jordan a un destin présidentiel. Et j'ai bien compris qu'il vend des bouquins qui cartonnent. J'ai compris qu'il avait une histoire d'amour très glamour avec une princesse. Moi, j'ai quoi à côté ? J'ai un procès. Des calendriers de chats. Et en termes de glamour, j'ai vécu avec Louis Alliot. Voilà. Pas mieux. Voilà, excusez-moi.
On vous sent un peu amère, Madame Le Pen.
Amère, moi ? Non, pas du tout. Écoutez, pourquoi ? Hein ? 20 ans que je m'échine à me préparer la présidence. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, au moment où elle me tendait les bras, je suis ravi de l'offrir sur un plateau.
C'est dur, c'est dur. Oui.
Mais bon, comme ça, cela me laisse le temps de regarder votre émission sur RMC Story, Apolline chez vous.
Ah oui, vous avez regardé ?
Oui, je vous ai vu dans le petit camion de Patrick, artisan boucher. Qui veut sauver son métier de boucher ambulant. Bravo! Bravo, Mme Malherbe, bravo. Quel journalisme de terrain. Oui, vous faites là. Il y en a qui vont sur le terrain en Ukraine, vous allez dans le petit camion de Patrick.
Oui, boucher ambulant.
Voilà,
c'était
Yann, sa boucherie.
C'était Yann, Madame Le Pen. Enfin, il n'y a pas de petite cause, Madame Le Pen. Et puisque vous aimez les journalistes de terrain, Pascal Pro, qui couvre la guerre de CNews, est avec nous pour les titres. Bonjour, Pascal.
Bonjour Apolline, et surtout bonjour à Jordan Bardella, Jordan, que je tiens à rassurer, même s'il ne veut plus aller chez Morandini Live. Eh bien, cher Jordan,
tu seras bienvenu chez moi.
Voilà, de toute façon, je soupçonne que tu as gardé ton badge de CNews et ta carte de cantine. Parce qu'en plus, je tiens à le préciser, on t'a trouvé une place de parking plus proche de l'ascenseur. Ah. C'est celle de Sonia Mabrouk, car quelque chose me dit qu'elle n'en aura bientôt plus besoin. À propos, le nouveau code pour accéder au studio, c'est JB2027. Voilà, allez, c'est parti pour les titres.
Il rit tout de même.
Algérie, oui, ça commence bien. Bah, on commence le chapeau de roue, voilà. Les parents de Christophe Glaise, le journaliste emprisonné en Algérie, ont supplié Emmanuel Macron d'agir pour la libération de leur fils après que celui-ci ait été torturé en subissant 45 minutes de visite de ses collègues royales. Ben oui, vous comprenez, si on reçoit peu de gens de gauche sur ces news, c'est pas par sectarisme, mais uniquement pour respecter les conventions de Genève.
Ah, ça doit être ça.
Voilà, puis cinéma avec la sortie du documentaire sur Mélania Trump et François Cluzet souhaité réagir.
Non, c'est ça. C'est ça le cinéma français aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre sujet que de faire des films sur une première dame botoxée, déguisée en abat-jour. Alors, allons-y, pourquoi pas un biopic sur la femme du général de Gaulle avec Pierre Niney dans le rôle de tante Yvonne. Ok. Et Françoise Civil, c'est ça. Hein, dans le sud, Madame Pompidou, si c'est ça que les gens veulent voir au cinéma, ben, moi je m'adapte. Ok, un tailleur Chanel, un sac à main, une perruque qui pue la laque et je te fais Bernadette Chirac. Voilà. En plus, c'est dans mes cordes, une vieille dame qui râle tout le temps. Hein, merde.
C'est un peu vous ça, Monsieur Cluzet. Merci beaucoup. Merci à tous. Ségolène Royal est avec nous. Oui. Bonjour, Madame Royal. Votre déplacement en Algérie a fait polémique.
Oui.
Vous n'avez pas eu un mot en public avec les autorités algériennes sur le journaliste Christophe Glaise.
Oui, oui, oui. Mais écoutez, j'allais pas me livrer en parlant d'un sujet qui fâche. Pardon. Hein, je viens juste de retrouver un emploi de présidente de l'association France-Algérie. Hein. Hein, donc vous êtes gentil, mais quand vous êtes en période d'essai, pardonnez-moi, vous n'allez pas voir votre patron en vous plaignant de la qualité de la cantine ou des horaires de réunion.
Enfin, vous avez quand même finalement obtenu de voir Christophe Glaise. Enfin, vous n'avez essayé qu'il soit transféré dans une prison plus proche d'Alger.
Oui, ça m'écoutez, c'est la méthode de Ségolène.
Oui.
Qui mieux que moi pour détendre les relations entre la France et l'Algérie, hein? Si, je m'y connais en relations glaciales et conflictuelles, hein. Je vous rappelle quand même que j'étais en couple avec un certain François Hollande, hein. Voilà, alors il faut que les deux pays mettent de côté leur rancœur et passent à autre chose, hein, comme j'ai su le faire tout en diplomatie avec ce gros bâtard de François Hollande.
Merci Madame Royal. Allez, Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les grandes gueules, nous reviendrons sur cette polémique autour du voyage de Ségolène Royal à Alger avec Jean-Michel de Toulouse, qui est un spécialiste de l'Algérie, puisque chaque dimanche, il déjeune au restaurant Les Délices de Marrakech.
Oui, c'est une évidence.
Et puis, la flotte américaine dans le Golfe Persique, la flotte américaine, doit-elle attaquer l'Iran? Nous en parlerons avec Christian, qui est au cœur de cette actualité, puisque pas plus tard qu'hier, il jouait avec son petit-fils à la bataille navale. Nous reviendrons sur le scandale autour de cette différence entre l'autonomie réelle des voitures électriques par rapport à celle annoncée par les constructeurs. Et nous aurons donc, avec attention, le témoignage de Jocelyne qui n'a pas de voiture électrique, mais qui rencontre le même problème d'autonomie depuis plus de 20 ans entre ceux qui lui avaient vendu son mari et le temps qu'il tient lors de leurs ébats amoureux. Voilà. Comme toujours, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci beaucoup Nicolas Coquelou, qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Merci à Jordan Bardella d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG, quel est le vrai programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous serons avec l'enseignante Barbara Lefebvre, l'avocat Charles Consigny, l'éducateur Abel Boyon. On parlera du budget de l'État. Est-ce que la crise politique est terminée? On reviendra sur ce que veut faire le MEDEF, la création d'un CDI, nouvelle mouture pour les jeunes. Et puis nous recevrons Eshan, il est iranien, c'est un auditeur des GG au 32-16 et il viendra parler de cette crise qui secoue son pays avec les contacts qu'il a là-bas. Donc rendez-vous avec les GG là dès maintenant entre 9h et midi.